On la voit partout, on en entend parler partout, il est temps qu'elle sorte de notre tête.
Mais vous tombez bien, donc bienvenue au podcast COVID-19 sort de ma tête. Et puis justement, ce podcast-là a trois buts en particulier. Je suis pas mal sûre que vous les connaissez déjà maintenant si vous avez écouté les deux autres épisodes. Donc premièrement, on cherche vraiment à normaliser les différentes réactions psychologiques qu'on peut avoir en réaction à la pandémie. On cherche ensuite à déstigmatiser ces réactions-là, donc pour s'assurer que, justement, si vous avez besoin de parler de ce qui se passe, que vous ne vous sentez pas jugé en le faisant, que les gens puissent en parler ouvertement. Et puis, finalement, on cherche aussi à bâtir une espèce de résilience collective en vous donnant des trucs et astuces sur comment mieux s'adapter à la pandémie. Donc, je me présente, mon nom est Marjolaine, je suis étudiante à la maîtrise en psychiatrie et je suis votre co-animatrice pour le podcast.
Et je me présente, je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin, je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation et je suis responsable du volet résilience de ce podcast.
Et je me présente, mon nom est Justine Fortin, je suis étudiante à la maîtrise en psychologie et aussi votre co-animatrice au podcast. Pour cette semaine, encore une fois, nos partenaires, c'est les Fonds de recherche du Québec, donc merci sans qui on ne pourrait pas faire le projet, dans le fond, parce qu'ils nous financent et permettent justement qu'on filme les quatre épisodes. On a aussi nos collaborateurs qui, eux, nous aident vraiment avec la qualité du contenu qu'on vous présente sur chacun des épisodes. Donc, je vais les nommer. Charles Ohayon, des productions Casablanca, Manuela Ferrari et Alain Brunet, chercheurs universitaires. On a aussi un merci spécial à Romain qui nous aide aussi avec l'administration et la diffusion du podcast. Et on tenait aussi à remercier le studio SF dans lequel on enregistre ce podcast.
Et justement, parlant de podcast, donc pour aujourd'hui, le thème qui va être abordé, c'est les réactions comportementales. Donc, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on s'adapte à la pandémie? Et un peu plus en détail, il y a vraiment quelques sujets qui ont particulièrement été abordés que je pense qu'ils vont vous intéresser. Donc, on a discuté de la quête identitaire et comment celle-ci est affectée par la pandémie. On a aussi discuté de la croissance post-traumatique. Donc, si vous ne connaissez pas déjà ce terme-là, donc on va en discuter un peu plus. C'est quelque chose de très intéressant que je pense que tout le monde pourrait gagner à connaître ce terme-là. On discute aussi de l'importance de se mettre à l'action, donc de se forcer un peu, si je peux dire ça comme ça, à faire les choses, à se sortir de notre écran d'ordinateur, même si ça ne nous tente pas toujours. Et puis finalement, donc on va aussi discuter de résilience collective, comme à l'habitude, de comment d'essayer de vous outiller pour essayer de mieux s'adapter à la pandémie. Mais avant de vous laisser entre les mains de notre porteur de bonnes nouvelles, donc on a une équipe de collègues qui fait un projet donc aussi financé par les Fonds de recherche du Québec. Donc, eux font une balado-diffusion et des capsules vidéo sur la santé mentale des athlètes, que ce soit de haut niveau ou de niveau récréatif. Donc, si le podcast d'aujourd'hui vous intéresse parce qu'on parle surtout des activités physiques, je vous conseille fortement d'aller regarder leur podcast aussi qui va être diffusé à la fin mai. Et pour les retrouver, donc, ça s'appelle « Match contre la COVID-19, santé mentale sur la ligne ». Donc, je vous invite à aller les retrouver soit sur YouTube ou sur les différents sites de balado-diffusion. Et finalement, pour bien terminer l'introduction, je vous laisse entre les mains de notre porteur de bonnes nouvelles, Rémi.
Donc, durant la pandémie, c'est pas un secret que les écoles ont vraiment été chamboulées. Mais à l'intérieur de toute crise, on peut retrouver des opportunités. Par exemple, les cours à l'extérieur ont été proposés comme solution. Les cours à l'extérieur ne sont pas nouveaux, mais selon un sondage, la moitié des enseignants qui ont répondu les auraient en fait mis en place pour la première fois à l'automne 2020, et ce, tant au primaire qu'au secondaire. Mm-hmm. Par exemple, sans surprise, parmi les matières les plus utilisées ou les plus mises en place à l'extérieur, sans surprise, la première place, c'est l'éducation physique, évidemment, mais aussi les Français, le français, les mathématiques, les arts et les sciences et technologies. Parce que c'est vrai que les cours à l'extérieur amènent certains défis, mais apportent aussi plusieurs bénéfices. Par exemple, on peut parler de se reconnecter à la nature, diversifier les contextes d'apprentissage et aussi favoriser un mode de vie sain et actif chez les élèves et donc les rendre un peu moins sédentaires. Parce que quand on fait les cours à l'intérieur, évidemment, la majorité du temps, on est assis, on est immobile. Tandis que quand on fait les cours à l'extérieur, beaucoup plus rarement, on va être immobile, on va beaucoup être plus actif. D'ici là, ceux qui souhaitent s'activer, par exemple à la maison, on a trois chaînes YouTube à recommander qui ont été évaluées par des experts en santé physique de la revue Protégez-vous. On a d'abord, pour les adeptes de yoga, on a Yoga Coaching. Et pour les adeptes de plus d'entraînement physique, dépendamment de vos objectifs d'entraînement, on a Body Time et Sissi Mua.
Si je peux ajouter peut-être ma suggestion, c'est sûr que là, c'est en anglais, par contre, mais fitnessblender.com, qui est une chaîne YouTube, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis moi, ça m'a sauvé un peu pendant la pandémie. Donc, il y a vraiment des vidéos de tous les types. Donc, autant avec matériel, sans matériel. La longueur des vidéos aussi, elle varie. Donc, si vous avez juste un petit 15 minutes, ben vous avez le temps de faire votre entraînement. Si vous les avez 2 heures, vous en avez pour tous les goûts. Il y a même des trucs nutritifs. Donc, c'est vraiment une chaîne vraiment le fun, puis que j'ai découvert avant la pandémie, mais je vous le conseille parce que, tu sais, nous, on est dans un 3,5 au-dessus de certaines personnes. On ne peut pas sauter, mais il y a des entraînements pour ce type aussi. Ça s'adapte aussi à où est-ce qu'on habite, là. Fait que je le conseille.
Puis même que cette chaîne YouTube-là a été évaluée aussi par les mêmes experts de la santé et recommandée aussi, mais du côté plus anglophone, parce qu'il avait fait les deux.
Bon, une pierre deux coups.
Oui, exactement. Et vous, à la maison, comment réussissez-vous à rester actif durant la pandémie? On est intéressé de le savoir, donc vous pouvez nous laisser écrire un petit commentaire dans la section en dessous de ce vidéo YouTube-là. Et il nous reste juste à nous souhaiter aussi un bon podcast et bonne écoute.
Donc, après un peu plus d'un an à vivre avec la pandémie de la COVID-19, on remarque vraiment que tout le monde a adopté des comportements différents en réaction à la pandémie. Puis c'est vraiment toutes des réactions comportementales qui sont uniques à tous et chacun. Donc, lorsqu'on parle de réactions comportementales, on fait surtout référence aux différents comportements qui sont adoptés par les gens en réaction à la pandémie, mais aussi aux restrictions qui sont associées. Donc, c'est quand même assez intense, on s'entend. Mais puis pour certaines de ces conséquences comportementales-là, c'est que c'est pas facile pour tout le monde de suivre les différentes restrictions. Il y en a pour qui c'est peut-être un peu plus facile, entre parenthèses, on s'entend là, de les respecter. Et puis justement, tout ça malgré les conséquences que ça peut porter, malgré les risques potentiels auxquels on s'expose à travers ces différents comportements à travers ces différents comportements-là. Et puis, pour certaines autres personnes, c'était vraiment une question de s'adapter à la pandémie avec certains comportements, donc prendre certaines habitudes, commencer à s'entraîner, créer ou découvrir de nouveaux hobbies, tout ça. Et puis, c'est ça.
Oui, donc, pour prendre part à la discussion avec nous sur les réactions comportementales, on a nul autre que Catherine Laurier, qui est professeure, justement, au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Elle est également membre du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, donc le GRIS, et également psychologue de formation, qui a fait aussi une étude sur la COVID. Donc, ça va être super intéressant de t'avoir sur la discussion. Merci d'être là.
Bien, merci.
Et on a PH Quentin, donc on est super content aussi de t'avoir sur le podcast. C'est sûr que lui, il est entrepreneur, donc on est en ce moment dans son studio, donc on est très chanceux. Et ouais. Également, il est podcasteur, donc il a aussi beaucoup plus d'habitude que nous d'être ici et de discuter. Puis ce qu'on a trouvé ça intéressant pendant la pandémie, c'est que tu as réussi à t'adapter face justement à la pandémie en t'entraînant justement par le sport. Puis c'est ça qu'on veut venir voir un peu comment tu as eu cette expérience-là à travers la pandémie. Donc merci d'être là avec nous.
Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
Oui.
Merci de nous recevoir chez vous.
Donc pour commencer, est-ce que vous avez peut-être une anecdote, une histoire qui s'est passée pendant la pandémie que vous aimeriez partager avec nous?
Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Depuis la pandémie, ça fait déjà plus qu'un an. Peut-être que, anecdote, vous venez de parler, là, du sport puis de l'adaptation. Là, j'apprends que PH aussi fait ça, mais moi aussi. Moi, quand ça a commencé la pandémie en mars 2020, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire l'été qui vient? Moi, j'ai une enfant qui est en première année. Je suis sportive. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour l'été? Comment je vais l'occuper, ma fille unique, là? Je veux pas être une géo nécessairement. Donc, j'ai commandé la plus petite piscine hors terre possible sur le marché pour mettre dans la cour, finalement. Puis, avec la pandémie, c'est moi qui s'en ai le plus servi. J'ai nagé sur place comme jamais, attachée après la galerie. Fait que peut-être ça, c'est assez rigolo, mais ça m'a appris que je pouvais nager chez moi, finalement.
C'est une bonne façon de faire, parce que les piscines, étrangement, les piscines sont restées ouvertes quand même assez longtemps. Là, les piscines d'entraînement, moi, c'est ça que je faisais. Là, j'allais m'entraîner aux piscines quand tout le reste a fermé, en fait. Mais moi, c'est en fait, mon anecdote principale, c'est vraiment lorsqu'il y a eu le couvre-feu qui est revenu, que là, c'était devenu vraiment un 30 jours. Puis là, évidemment, 30 jours s'est transformé un peu. Là, mais moi, je l'ai pris vraiment comme un camp d'entraînement. Là, quand je faisais de la natation, j'ai nagé avec le Rouge et Or au-dessus de 15 ans. Puis là, je me suis dit, OK, fait que tous les jours, un jour à la fois, je vais juste prendre ça comme un camp d'entraînement pour me remettre, pour qu'après les 30 jours, je sois là au sommet de ma forme. Puis comme de fait, ben c'est ça qui s'est passé. T'sais. Fait que ça, moi, ça a vraiment été mon turning point, je pense, de la pandémie, là, où est-ce que mon mindset a vraiment changé pour être beaucoup plus positif que, malheureusement, les 8 mois précédents. Là, mm-hmm. Ouais.
Toi, Marjo, t'as-tu une anecdote?
Je suis encore en train de se penser que je vais te laisser y aller.
Mais nous, dans la famille, au Super Bowl, à chaque année, dans le fond, on fait un gros souper, là, puis là, tout le monde amène de la cochonnerie à manger, puis on fait un pool. Donc, c'est vraiment dans des moments comme ça, à chaque année, qu'on réalise, oh mon Dieu, là, c'était super important. Du day-to-day, je ne le réalisais pas nécessairement, mais c'est vraiment dans des événements comme ça que, mon Dieu, ça s'est ressorti. Mais j'ai trouvé super ingénieux ma famille qui a décidé quand même de cuisiner, dans le fond, chili, le poulet, tout ça. Puis ils se sont promenés de maison en maison pour nous faire l'échange, justement, de la nourriture. Fait qu'on a quand même vécu à distance, justement, notre Super Bowl, puis on a chanté sur la mi-temps avec The Weeknd. Et,
très cool.
C'était parfait.
Très cool.
Oui.
Cool. Je pense que... Oui.
Yes.
C'est là. Je pense que ça a été, en fait, un des gros impacts de la pandémie sur nous. Sur moi, en fait, personnellement, je suis une joueuse de volleyball récréatif. Par contre, je suis pas là. Mais puis ça a été vraiment tough quand tout est fermé. Fait que j'ai comme... Je suis retournée vers l'entraînement à la maison. Je me rappelle, j'étais comme, OK, cool, genre, je vais le faire, c'est bon. Mais il faut que je m'achète des dumbbells plus lourdes parce que tout ce que j'avais, c'est jusqu'à 8. Puis en m'amener à ma shape 8 du passé, là, surtout pour les jambes. Puis j'ai regardé les prix.
Ouais, c'était
ça. Puis j'ai bad-trippé, puis j'ai fait, fuck it. Genre, si vraiment c'est passé, je vais aller chercher de l'eau de Javel. Je vais m'arranger avec les barils. Fait que finalement, mon gym à la maison n'a pas changé, mais ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Fait que je suis pas trop inquiète pour ça.
Pendant quelques semaines, j'avais le même problème. Puis je suis allé au Club Presse m'acheter des grosses affaires de savon à lessive. Puis là, je faisais mes exercices de stabilité avec deux gros savons à lessive dans mes mains. Là, oui. On fait ce qu'on peut.
C'est ça, puis c'est... On n'a pas le choix d'être ingénieux et d'être créatif. Ça fonctionne super bien, mais c'est assez impressionnant.
Oui, puis aussi, l'équipement de gym était sold out. Là. L'équipement de gym maison, là, bonne chance pour s'en trouver. Là, Amazon, c'était genre 3 mois d'attente puis tout le kit.
Puis à coût de 300$, on est quand même des étudiants. Là. C'est pas vrai que...
Ça va vite.
Ouais, m'a le mettre sur mon loyer, c'était 300$.
Là, même plein, sur la bouffe, l'alcool, pendant la pandémie.
C'est ça.
Exactement. Donc, en fait, comme vous le savez, si vous avez écouté les... deux autres podcasts d'avant. Donc, notre laboratoire de recherche a fait une étude sur pour essayer de mieux comprendre, d'identifier puis de mieux comprendre c'était quoi les différentes réactions psychologiques que les gens ont pu avoir à la pandémie. Et puis, donc, à travers nos résultats, donc on essaie quand même de partager un peu de nos résultats à travers chacun des podcasts. Et puis, à travers nos résultats, on a trouvé qu'il y avait certaines réactions comportementales qui étaient plus fréquemment rapporté que d'autres, spécifiquement chez la branche des jeunes adultes de 18 à 30 ans. Puis on va partager ça un peu avec vous.
Oui, donc dans le fond, les 18-30 ans, là, ce qu'on a vu dans notre échantillon, puis je vais prendre mes notes parce que je veux être sûre de donner les bons pourcentages. Donc, il y a 60 % de notre échantillon, donc on a plus que 5000 personnes là, sur notre étude. Et 60 % des jeunes adultes semblent s'être inquiétés plus pour la sécurité des autres versus leur propre sécurité. Puis on avait les deux options là, dans le questionnaire. Donc, quand c'est les 18-30, c'est vraiment plus. Moi, ma détresse, elle est déclenchée par la peur que l'autre soit pas en sécurité. Puis notre autre gros résultat quand même, 30 % de notre échantillon, encore une fois les jeunes adultes, montrent qu'il y avait de la difficulté à contrôler leurs émotions. Donc ça reflète à travers des comportements un peu, qui peut être frustré ou pour les règles, contre les règles. Les deux, on va essayer de normaliser ça aujourd'hui, là, de voir comme les différentes réactions comportementales qui sont générées par le manque de contrôle de nos propres émotions. Donc ça, c'est nos deux gros résultats qu'on aimerait discuter avec vous aujourd'hui.
Cool. Parfait.
Exactement. Donc, on aimerait ça explorer un peu plus ces différentes réactions comportementales-là. Donc, pour mieux situer les gens sur les différentes réactions comportementales, donc autant celles qu'on a nommées, mais on est au courant aussi qu'évidemment, il y en a bien d'autres. On en a seulement identifié quelques-unes. Mais dans le fond, Catherine, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des différents comportements auxquels les jeunes adultes ont eu recours pour s'adapter à travers la pandémie, puis aussi... Petite introduction, on sait aussi, Catherine, que tu as lancé une étude sur la COVID aussi, sur l'adaptation des familles par rapport à la COVID avec Catherine Pascuzzo. Donc, je me demandais si tu pouvais aussi nous parler un peu de ce que tu as fait puis de ce que tu as trouvé.
Oui. Mais nous, en fait, je vais faire un petit peu l'histoire de notre projet. Là. Justement, ça rentre dans les anecdotes COVID de ce projet-là aussi. Avec ma collègue Catherine Pascuzzo, justement, de l'Université de Sherbrooke, on était en train de remanier un cours de développement de l'adolescent à cause de la COVID. On devait passer à distance en mars 2020, avril 2020. Puis, on s'est dit, mais là, qu'est-ce qui se passe dans les familles pour les ados? Puis, pour les familles aussi, c'est une pression comme jamais sur la cellule familiale, qu'est-ce qui se passe. Puis on était curieuse de savoir qu'est-ce qui aidait les gens à s'adapter, que ce soit les enfants, les adolescents ou les parents dans le contexte. Donc, un peu comme vous dites là, pour les jeunes adultes. Donc, on a mis en place ce projet-là qui ne ressemble pas à aucune autre recherche qu'on avait fait, ni une ni l'autre jusqu'à présent, là, tu sais, sur les réseaux sociaux, aller recruter sur les réseaux sociaux, puis faire des questionnaires entièrement en ligne, etc. D'habitude, on va cogner aux portes des gens puis, ou dans le milieu dans lequel ils sont, dans les écoles, etc., puis on va leur faire remplir les questionnaires. Donc, c'est le contexte là, où on a lancé l'étude, où on s'intéresse vraiment aux ingrédients qui font en sorte que certaines personnes vont réussir à s'adapter mieux que d'autres. Donc, la question de l'adaptation, un peu comme votre question. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes adultes pour s'adapter? Bien là, déjà, nous aussi, on nomme, moi, je ne suis pas une si jeune adulte, là, mais tu sais, on nomme certaines choses qu'on a fait pour s'adapter. Mais justement, on a été confronté à quelque chose de très inattendu. Hein? Mm-hmm. Fait qu'il a fallu s'adapter rapidement. Puis, c'est pas toujours évident de s'adapter rapidement quand on est déstabilisé puis que tout le monde alentour de nous est déstabilisé. Comme votre résultat de l'étude hein, qui disent que les jeunes s'inquiétaient beaucoup pour leurs parents, pour mm-hmm. leurs proches, mais pas pour eux. Fait que mm-hmm. ce sentiment d'être pas bien soi-même, mais en même temps avoir l'impression d'être redevable pour l'autre, c'est mm-hmm. pas évident à gérer quand on est un jeune adulte. Là, oui. Donc, je dirais ça là, qui a fait en sorte que ça a été certainement difficile l'adaptation là, pour eux autres. Puis la colère, tu sais, vous avez un peu nommé la colère, la frustration mm-hmm. de suivre les règles, etc. C'est normal quand on est un jeune adulte. Rappelez-vous, ben vous êtes pas si loin que ça, mais quand on est adolescent, ben on n'a pas le goût de suivre des règles. Puis ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse quand on est adolescent, de ne pas suivre les règles. Mm-hmm. Il y a juste ça, des règles depuis un an. Mm-hmm. Fait que c'est normal de pas vouloir les suivre, là.
Mmh. C'est vraiment intéressant. Super intéressant. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir là, sur ça. Là.
Ben oui, justement, je me demandais, toi, PH, comment tu l'as vécu côté comme quand les règles sont arrivées. Ouais. Là, je sais que toi, t'as commencé à faire du sport, etc. Mais côté ouais. comme émotionnel, peut-être, comment t'as vécu ça, la pandémie?
Ben, précisément comme ça, dans l'inconnu. Tu sais, moi, au début, sur la statistique qui dit que les jeunes de s'inquiètent plus pour les autres, moi, je fais de l'asthme. Fait que dans les maladies qui pouvaient compliquer, tu sais, avec la COVID. Puis au début, on n'avait aucune information réellement sur la gravité de ce que c'était, tu sais. Puis moi, je me rappelle qu'au début, j'avais peur pour moi. Tu sais, je me disais, OK, d'un coup, puis je suis quand même en forme, mais d'un coup que je pogne ça, puis là, on voyait des images en Italie de monde qui manquait d'air, puis je me disais, voyons, qu'est-ce, je vais mourir, là, tu sais.
Il manque de respirateur aussi,
ouais,
hein?
C'est ça, exact. Là, je voyais tout ça, là, je vais mourir, tu sais. Fait qu'au début, c'était un peu ça. Puis là, après ça, plus on a commencé à comprendre que les gens en bas de 30 ans ou en bas de 40 ans, en bas de 50 ans, il y avait moins de risques. Puis que là j'ai commencé à me calmer un peu puis à m'inquiéter vraiment plus pour justement mes parents qui, eux autres, arrivaient dans les âges vraiment à risque, tu sais. Mm-hmm. Puis ce qui était difficile avec les règles qui ont été mis de l'avant, c'était que... C'était difficile pour moi, puis j'imagine que c'était difficile aussi pour plein de jeunes, de se sentir réellement interpellé par ces règles-là. Parce qu'en se disant, moi, je me disais, admettons que tout le monde qui sont pas à risque respecte pas les règles, mais voit pas les gens à risque, tu sais.
C'est ça.
Fait que là, moi, c'était comme un raisonnement qui m'apparaissait comme logique, même si je sais que dans l'absolu, on peut pas compter sur ça, sauf que, sauf que la réception des règles que je me suis fait, puis que je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait, c'est un peu ça. C'est un peu de dire, ben là, moi, je vais pas voir mes parents, ça, c'est le sacrifice que je suis prêt à faire. Mm-hmm. Mais après ça, c'est quoi quels sont les autres sacrifices que je suis prêt à faire, tu sais? Puis c'est là qu'on revient un peu à l'adolescence en se disant, plus il y a de règles, moins on les écoute, tu sais? Puis c'est un peu de jongler avec ça, en sachant malgré tout que c'était, tu sais, que ça restait plus grand que nous. Puis j'ai été... Je pense que moi, personnellement, j'ai été bon pour être capable de voir que ça allait plus loin que juste... que c'était plus grand que juste moi, tu sais, fait que de respecter les règles pour la société, parce qu'on vit en société, sauf que quand même, je pense qu'il y avait ça dans l'arrière-pensée de tous les jeunes, de se dire, OK, moi, je prends le risque de pas voir mes parents qui sont peut-être à risque, mais moi, je suis un petit peu plus loose, tu sais, dans ma vie de tous les jours.
Ouais, là, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on voit justement chez des adolescents, tu sais, qui se disent, ah oui, je sais que telle chose existe là comme risque, mais pas moi, tu sais.
Ouais,
moi,
exact.
Je sais, en tout cas, toutes les campagnes de prévention des ITSS, notamment, sont là-dessus, tu sais, je sais que les ITSS existent, mais tu sais, pas moi, je connais cette fille-là, je connais ce gars-là, je vais être correct. Mais si c'était juste comme ça que ça se passe, il n'aurait plus d'ITSS.
Ben non, c'est ça, exactement. C'est comme si... OK, fait que là, si vous me dites que tu sais, les 50 ans et moins, on fait comme si de rien n'était, puis ça va régler la COVID, tu sais, c'est pas en tout.
Ben, c'est ça, mais c'est normal d'avoir eu cette réaction-là. Puis moi, tu sais, en tant qu'adulte, ça me fâchait de voir d'autres adultes qui comprenaient pas ces réactions des jeunes, tu sais. Je trouve qu'il fallait être aussi accueillant de ces réactions des jeunes, même si j'étais pas d'accord du tout, puis que comme adulte aussi, j'étais, tu sais, quand je passais proche des écoles secondaires, je me disais, ah, là, c'est pour ça que ça continue, la COVID, tu sais, puis j'étais fâchée.
À côté des parcs à Montréal.
Exactement, parce que moi, mon enfant de 7 ans va pas à l'école, puis là, je vois tous les impacts que ça a, puis, tu sais, toutes sortes de choses de cette façon-là, mais en même temps, de venir normaliser en quelque part, puis de comprendre pourquoi c'est normal que de pas vouloir suivre les règles, de penser que c'est pas grave si nous autres, on va le pogner, puis que nous, on l'attrapera pas, puis ce que je fais individuellement, ça changera rien à l'ensemble de la situation mondiale qui est catastrophique. T'sais. C'est normal quand on est un jeune adulte de penser comme ça.
Puis il y a aussi, moi j'avais des conversations avec des gens, des amis, des gens proches qui s'intéressent notamment à l'aspect économique du truc, puis que là, la réaction en challengeant l'idée qu'au final, la génération à risque, c'était la génération qui allait pas souffrir des mesures sanitaires en termes d'économie, tu sais. Puis là, de faire, ben là, OK, on arrête tout pour que nous, on paye cette dette-là dans X années. Puis là, pour des gens qui seront probablement plus là quand que va être le temps que nous, on arrive avec ce fardeau financier-là. Puis là, t'ajoutes ça à la situation, puis ça devient encore plus difficile, tu sais, de jongler avec tous ces facteurs-là.
Ça parle aussi de, tu sais, en plus d'autres impacts, comme tu mentionnes, on a discuté dans un des podcasts précédents des occasions manquées. Tu sais, comme là, nous, on est dans notre mi-fin vingtaine, c'est comme nos... Tu sais, puis on a une invitée dans le premier podcast qui dit, ah, ben, tu sais, fin vingtaine, c'est là que t'es supposé profiter de la vie, tu sais, les prochaines étapes sont un peu plus grosses, tu prends un peu plus de responsabilités. Puis là, t'es comme, oh shit, OK, non, je manque ça, là. Je manque ça, puis au prix aussi de la santé mentale des gens, on s'entend, là, je connais pas personne, puis je suis curieuse de savoir si vous connaissez quelqu'un pour qui c'était pas le cas, mais il y a personne qui m'a dit, hey, moi, jamais de down psychologique, tout a bien été, la dernière année, pas de troubles, pas de down, pas de ci, pas de ça, comme si rien n'était, c'est un pet. Il y a personne qui m'a dit ça. Fait que c'est ça, malgré tout ça, c'est sûr que ça a eu... Il a fallu s'adapter. Je sais même pas si tout le monde s'est encore adapté. Clairement, c'est pas tout le monde encore qui...
Aussi, là, parce que vu que les règles sont yo-yo, moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle adaptation. À chaque fois qu'il y a une nouvelle règle, c'est comme, OK, les gyms sont ouverts. OK, les gyms sont fermés. Puis, c'est à chaque fois, il faut qu'on se réadapte puis on se crée un objectif de, OK, c'est juste 2 semaines. Mais là, on n'y croit plus. On sait plus c'est quand la fin. Fait que je pense que c'est une adaptation à long terme. Là.
Moi, j'ai eu vraiment, pour rebondir sur ça, j'ai eu une épiphanie pendant la COVID parce que j'écoutais... je me rappelle plus, c'est un gars qui il s'appelle David Goggins, là. C'est comme un gars qui fait des speeches, là, tu sais, il a été dans l'armée américaine, puis là, il parle de motivation beaucoup, tu sais, puis il a pris son sel, puis il a juste dit, c'était suite aux élections américaines, en fait, okay. Puis il a dit, si vous pensez que quand Joe Biden va rentrer au pouvoir, ça va changer, puis il va y avoir un changement, il dit, vous vous trompez parce que le seul vrai changement, il est à l'intérieur de vous autres, tu sais. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, dans le fond, il n'y a rien que je contrôle dans la situation en ce moment, à part ma propre perception du truc, puis à part mon propre quotidien, tu sais. Fait, mm-hmm. fait c'est sûr que si les règles sont en yo-yo, puis t'attends juste qu'une source externe t'amène du bonheur ou de la paix ou de la... Tu sais, tu peux pas compter sur l'extérieur pour t'amener ça. Fait que là, moi, c'est quand j'ai compris ça, que j'ai fait, OK, non, donne-toi un objectif mm-hmm. à toi que t'es le seul à contrôler, puis base ton bien-être sur ça, parce que c'est la seule chose que tu peux contrôler, tu sais, dans le fond. Mm-hmm. Fait que moi, c'est comme le moment qui a changé là, ma perception du truc.
Ça me parle vraiment ce que tu dis, là, parce que justement, dans le premier printemps, on est dans le deuxième printemps mm-hmm. de la pandémie, puis moi, ce que j'ai trouvé excessivement difficile au départ, c'était... que c'était complètement incontrôlable, ouais. tu sais, mm-hmm. puis que ça nous était imposé comme ça. Puis moi, j'étais frustrée à tous les plans, tu sais. Mm-hmm. C'est ça qui arrive, hein, quand on est arrêté en quelque part, tu sais, les processus psychologiques, ben c'est une frustration, hein, qui arrive. Moi, j'ai été frustrée dans mon désir de travailler parce que mm-hmm. j'avais envie de travailler et je pouvais pas parce que je devais m'occuper de ma fille à la maison. J'étais frustrée aussi de ne pas pouvoir être bien. Je n'étais pas contente d'être marabout.
Ouais, mais oui, tout à fait.
Puis je n'étais pas contente non plus de ne pas pouvoir, pour la première fois en tant que mère, là, régler le problème puis dire à ma fille, demain, maman, elle va tout arranger. Mm-hmm. Puis demain, ça va être correct. Mm-hmm. On a ça, on se sent tout puissant quand on est parent pour nos enfants. Des fois, puis là, c'est la première fois que ça m'arrivait que je ne pouvais pas régler le problème. Que j'étais très frustrée par rapport à tout ça. Puis quand on a mis le projet de recherche en place, j'ai eu l'impression que là, je faisais quelque chose puis je m'activais dans quelque chose. Puis que... ben que moi, j'étais pour en faire quelque chose de créatif. Puis à partir de mm-hmm. ce moment-là, où le projet a été mis en place, ma créativité, là, elle a explosé, tu sais. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, je fais de la recherche autrement, je vois les choses autrement, je suis capable de penser puis de me dire, ah, ben là, c'est ça, moi, dans la COVID, peu importe ce qui va arriver, c'est à l'intérieur de moi, comme tu dis, tu sais. Mm-hmm. À l'intérieur de moi, je vois ça autrement, puis... on le dit, hein, c'est dans le chaos que naissent les grandes idées. Oui. Fait que c'est un chaos mondial présentement. Mm-hmm. Donc,
il va en avoir des bonnes idées.
Exactement, mais il y en a eu plein de bonnes. Puis aujourd'hui, ça en est une, tu sais.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Nous aussi, c'est un peu ça. Là, au début, dans le lab, on était comme, OK, mon projet, je peux pas aller recruter des participants. Moi, c'est des femmes qui ont un cancer du sein. Les cliniques cancer du sein se sont fermées, fait que je pouvais pas aller recruter mes participantes. Mais Marjo qui a eu cette idée de projet COVID dans notre laboratoire, puis ça nous a finalement tous rapprochés. Moi, je connaissais pas Marjo tant que ça avant que ce projet soit lancé. Mm-hmm. Fait que je sais pas si tu veux en parler aussi par rapport à ça, là, ton idée, puis comment ça a pu changer un peu nos perceptions.
Oui, ben en fait, je connecte énormément avec ce que tu viens de dire, Catherine, pour la simple et bonne raison qu'en fait, comment c'est parti, c'est que on avait un petit groupe d'étudiants gradués qu'on avait eu un cours ensemble, fait qu'on avait notre petit chat, puis comme après toutes les cours, d'habitude, on allait à la bière, tu sais, il y a un petit pub à McGill, que comme on allait toutes là-bas, puis c'était le fun, on mangeait, on buvait, on chattait. Puis là, quand la pandémie est arrivée, on s'est mis à discuter dans notre groupe de conversation, puis à être comme... Guys, genre, comment ça se passe pour vous par rapport à vos études? Tu sais, il y a des thèses, des mémoires de maîtrise, je m'excuse, parce que thèse en français, c'est doctorat, mais en anglais, thèse, c'est pour les deux, en tout cas. Mémoire de maîtrise, tu sais, il y a des gens qui ça les a énormément affectés, qui sont comme, il a fallu qu'ils changent leur projet, il a fallu qu'ils changent complètement. J'étais comme, oh shit, OK, comme ça apporte énormément de stress aussi par rapport aux études. Puis, ce projet-là, c'était supposé être un projet pour les étudiants gradués, genre pour les étudiants universitaires, de voir comme, OK, c'était quoi le niveau de stress dépendamment du niveau. Finalement, quand j'en ai parlé à notre superviseur, ça l'a pris toute une autre ampleur. De comme, ben là, tant qu'à être, on va le faire international. Fait que ça a été... Ça a vraiment été me chercher parce que j'ai l'impression qu'une des raisons pour laquelle je me suis aussi bien adaptée puis j'ai aussi bien copé avec la pandémie, c'est vraiment d'avoir ça, de se sentir comme qu'on apporte quelque chose, qu'on essaye de... Pour moi, ça a été comme une de mes plus grosses réactions comportementales. C'est une opportunité de malade. Let's go, on comprend ça. Genre, on le tackle tout de suite maintenant. Puis comme, je me sens utile. On fait quelque chose, on bouge. Puis comme de fait, on a été chercher à peu près 6000 personnes à l'international qu'on a suivies pendant 6 mois quand même. Donc, on les a suivies aussi. J'ai passé les derniers mois de la recherche à faire des infolettres, à comme trouver des bonnes nouvelles. Ça, c'est important d'essayer de garder quelque chose de positif à travers tout ça. On a décidé d'expliquer c'était quoi le concept du deuil, comment ça peut être comme appliqué à la COVID. Mm-hmm. On a donné des résultats aussi parce qu'on voulait pas juste leur dire « Hey, merci d'avoir participé. Haha, on prend encore plus de données. » T'sais, on trouvait que c'était important de leur redonner. Puis pour nous, c'est un peu à travers ça aussi. Puis aujourd'hui, le podcast qui fait vraiment comme qui est un peu comme la colle avec tout ça. Puis ça a vraiment rapproché des gens comme avec Juju. Comme a dit, avant, on se connaissait pas. Puis là, c'est comme... À chaque fois qu'il y a du drama qui se passe avec nos collègues, c'est comme... Première que j'appelle, je suis la première qui a l'appel, puis ça jase.
Premier
ça
répondant. Donne.
Oui, exactement. Exactement.
Ouais,
c'est
mais
très cool. Moi, j'étais en train de rédiger mon mémoire de maîtrise, justement, avant la pandémie, puis j'étais un peu coincé, là, tu sais. J'étais comme rendu à un spot où est-ce que là, j'avais honnêtement 100 pages de fait, là, tu sais. J'étais genre, j'achevais, là, tu sais. Puis là, je me relisais, puis ça marchait pas, puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Fait que quand la pandémie est arrivée, initialement, j'ai juste arrêté de travailler dessus parce que j'avais plus de moteur créatif, mettons, là. Mm-hmm. Puis là, fait que je l'ai juste laissé de côté. Puis à fin de l'été, fait qu'à l'automne, l'automne qui vient de passer, j'ai comme eu encore une fois, une autre épiphanie, là. Tu sais, ça s'est pas arrêté de la pandémie, là. Parce que là, j'ai fait, ah, ok, non, il me semble que j'ai un nouvel angle. Fait que j'ai juste tout délité, là, mais j'ai restarté un document complet.
Okay.
J'ai recommencé une rédaction de quelque chose de complètement différent, mais que là, je le relis, puis je fais comme, ok, non, c'est pas mal mieux, là, tu sais.
T'es rendu à combien de pages?
Oui, c'est ça.
Là, je suis rendu à 50. Fait que, tu sais, okay. Une cinquantaine. Fait que j'avance tranquillement, mais ouais.
Mais 50 de rédaction, c'est gros.
Ouais,
là.
C'est gros, là.
Ouais, non, je sais. Je suis au courant de ça.
Mais je vais juste vous dire que des fois, écrire 5 pages, c'est plus dur que 5.
Ouais, c'est ça. C'est que quand t'as un bon souffle, là, ça va mieux. Là.
Ouais. Couper, c'est pas toujours évident. Puis on faisait ça aussi dans la préparation du podcast. On était comme, mais ça, c'est cool. On veut que ce soit là. Puis là, c'est comme, ouais, mais c'est peut-être pas aussi pertinent. Comme, ah, okay,
on va faire 10 épisodes. Non, les filles, vous allez faire 4 épisodes. C'est ça. Comme restreint.
Des fois, quand on finit le sans filtre podcast, des fois, ça fait 2h30 qu'on parle. Puis là, on arrête à la fin. Puis on fait, on a manqué de temps. On voulait aller ailleurs. On n'est pas allé finalement. Mm-hmm. Écoute, c'est la vie. Mm-hmm. Faire des choix créatifs.
Mais tu sais, il y a tellement de trucs à explorer. Puis juste aujourd'hui, les discussions qu'on va avoir, on s'entend, on explore seulement une perspective. Tu sais, il y a clairement plus que ça. Là. Puis ouais. Même encore là, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore que j'ai hâte de voir ça va être quoi.
Mais moi, j'aurais quelque chose à ajouter. T'sais, depuis tantôt, je cogite là, mm-hmm. sur qu'est-ce qui nous a apporté. On y va dans le positif. Ouais. Mais comme tu as dit tantôt, c'est que c'est pas tout le monde. Là, tout le monde a eu des dents mm-hmm. aussi. Puis j'essaye de réfléchir. Moi, on pense à ceux qui ont réussi à s'adapter. C'est qu'ils ont mm-hmm. réussi à prendre qu'est-ce qu'il y avait de ce chaos-là pour mm-hmm. se propulser, pour aller ailleurs, pour effacer l'ancien mémoire, puis écrire un nouveau. Il y a eu de ça aussi. Mais pour faire ça, ça prend des bases solides. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose de solide. Puis, je pense que c'est ça, des fois, qui, quand on est jeune adulte, puis qu'on cherche, justement, puis qu'on est en une période de la vie où on est déjà en recherche identitaire. Tu sais, l'adolescence, c'est ça, hein, tu sais, chercher qui on est, puis essayer de faire des tests identitaires. Là, rappelez-vous, à l'adolescence, tu sais, des fois, mais on s'habille d'une telle façon, le lendemain, c'est complètement autre chose, puis ça va avec le groupe d'amis avec qui j'aimerais donc être amie, puis que je trouve formidable, etc., tu sais. Fait que si on est dans cette période-là, quand arrive la COVID, puis qu'on est complètement déstabilisé, puis qu'on peut plus aller à l'école, puis voir justement ces groupes-là auxquels on voulait peut-être s'attacher, mais là, on est tout seul, puis on n'a pas cette base stable, justement, pour reconstruire puis essayer d'aller mieux. Fait que quand je reviens à vos comportements, là, à risque et tout ça que font les jeunes adultes qui énervent tant que ça le reste de la population, mais il faut pas oublier qu'ils cherchent, là, dans tout ça, puis eux autres, on peut pas leur demander d'arrêter de grandir, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de la peine, tu sais. C'est la première fois qui, tu sais, ça fait au moins 20 ans à peu près là, que je suis dans l'univers de la recherche, si on compte mes années étudiantes. Puis, bien, tu sais, moi, quand je suis devant une base de données ou des entretiens quali, tu sais, j'écoute, tu sais, je les écoute, là, mes données, puis je les sens bien. Mais là, c'est la première fois que, quand j'étais devant une base de données, j'étais vraiment triste, tu sais. J'avais le moton. En lisant puis en regardant ce qu'il y avait dans mes données, c'est que je me disais, ces pauvres jeunes-là, tu sais, on leur impose d'arrêter leur développement. Alors que moi, comme adulte, tu sais, j'ai déjà fait mon développement. C'est bien plate de ne pas pouvoir voir mes amis. C'est bien plate d'être à la maison, d'être toujours avec mon chum, mais je me suis développée. Je sais qui je suis. J'ai plus besoin de faire ces tests-là. Je suis capable d'accepter un an, tu sais, à la maison. Mais pour un jeune, c'est dramatique. Comme vous parliez, tu sais, la vingtaine, ça devrait être l'année de toutes les expérimentations. Moi, j'étais allée à l'international, j'étais allée faire plein de choses, puis ça m'a construit, ça, tu sais. Fait que c'est là que je pense que pour rebondir, tu sais, quand on vit un événement difficile, ben, faut avoir la base stable, tu sais. Puis je pense que, ben, PH, je comprends bien que tu l'as, tu sais, quand tu dis, moi, j'étais un athlète, tu sais, tu sais, t'es qui. Tu sais, fait que tu sais.
Ouais, puis j'ai plus 18 ans non plus, là.
Exactement. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, t'es qui, tu sais. Ouais, ouais. T'es arrivé, puis moi aussi, je sais, je suis qui. Puis, mais c'est pour les jeunes, moi, que j'ai tant de. C'est ça, j'ai de la tristesse, puis je trouve qu'il faut que la société soit plus compréhensive, finalement, puis reconnaissent surtout la reconnaissance de tous ces efforts-là là, qu'on leur demande depuis un an. Je trouve qu'on le prend pour acquis, tu sais, qu'ils devraient juste suivre les règles, puis mettre ça sur pause, puis écoute, ça va revenir, t'es jeune, tu vas avoir encore plein d'années dans ta vie. Ben non, justement. T'es jeune, il te reste plein d'années à vivre, tu sais. Fait qu'on veut qu'eux autres, qu'on soit gentils avec eux autres, finalement, puis qu'on les rattrape, là.
Puis l'identification, c'est quand même particulier aussi, parce que souvent, quand on parle de s'identifier, tu sais, il y a comme plusieurs choses auxquelles on s'identifie, comme, tu sais, comme PH, t'es athlète, mais j'imagine qu'il y a aussi tes études à comme un certain niveau, tu sais, tes relations interpersonnelles, mais tu sais, quand que quelque chose, tu sais, à cause d'un facteur externe incontrôlable, comme tu dis, il y a certains piliers d'identification qui se font complètement comme tu sais, slap, puis merci, bonsoir, puis arrange-toi sans ça. Comme j'imagine aussi plusieurs personnes, tu sais, pour qui la famille doit être extrêmement importante, que comme finalement, hey, ben arrange-toi pendant, on ne le savait pas non plus là au début, mais pendant un temps indéterminé, puis on ne le sait pas encore, on ne le sait toujours pas d'ailleurs. Là, on parle de vaccins qui s'en viennent bientôt, mais réalistiquement, on ne sait pas c'est quand que ça va arrêter, tout ça. Tu sais, de faire sans cette partie-là, j'imagine que tu sais que ça doit être difficile. Puis même au niveau personnel, moi, avant la COVID, j'étais convaincue que mon doctorat, j'allais le faire à l'étranger. Pour moi, c'était un but. Je voyais pas ça autrement. Finalement, j'ai peut-être été chanceuse dans ma malchance parce que avec la COVID a quand même créé beaucoup d'opportunités de recherche. Catherine, comme tu as pu en faire l'expérience aussi, finalement, j'ai comme un peu changé pour dire, OK, je vais rester ici pour mon doctorat, mais je vais le faire sur la COVID. Fait que ça a apporté une autre opportunité. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, je peux dire ça comme ça. C'est pas tout le monde qui a comme l'opportunité de comme, tu sais, le pilier d'identification qui est détruit. Il y a certaines personnes pour qui il reste détruit. Puis ça, je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent dealer avec ça. Je sais pas si vous avez des idées, là.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais, c'est parce que tu dis que c'est effectivement pas tout le monde qui a les mêmes ressources, en fait, puis la même capacité d'adaptation. Par contre, Tu sais, je pense pas que t'es tombé par magie là, dans quelque chose qui peut te faire progresser quand même. Mm-hmm. Fait que je pense que malgré tout, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans la pandémie pour tout le monde, mais je pense que malgré tout, tout le monde a un peu été forcé à faire des choix pour le futur. Tu sais, on peut pas. Il y a personne qui est resté stable, tu sais. Mm-hmm. Qui est resté immobile dans son parcours. Tout le monde a fallu que tout le monde s'adapte. Puis une autre affaire que je réfléchis parce que je pense aussi, tu sais, mettons, moi quand j'étais au secondaire, cégep, même université, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi ma réponse c'était je fais de la natation. J'étais un nageur, tu sais. Puis tout ce que je faisais autour était juste secondaire à ce par quoi je m'identifiais comme étant un athlète, un nageur, tu sais. Puis si on m'avait enlevé ça pendant un an parce que c'est ce qui s'est passé, là tu fais OK, là je m'identifie comment parce que je suis plus un nageur, tu sais. Mm-hmm. Sauf que cette expérience là de vivre la COVID reste malgré tout une expérience formatrice. Mm-hmm. Fait que même si tu perds ton je sais pas le terme que tu utilisais là pour
j'appelle ça un pilier mais
un pilier d'identification mettons là mais même si tu perds ça, tu sais, reste que vivre un an et demi dans ta tête à apprendre on va sûrement en reparler plus tard, mais à gérer tes émotions, à apprendre à vivre avec toi-même, j'ai l'impression que ça reste malgré tout une expérience formatrice qui va amener de l'expérience dans la vie des gens qui n'est pas la même qu'ils auraient vécu sinon, mais qui reste des années formatrices assez importantes puis aussi assez traumatiques, tu sais. Fait que, quand je me suis mis à penser à ça, je me sentais un peu moins pessimiste par rapport à qu'est-ce qui va se passer avec ces générations-là, puis même avec tout le monde qui... C'est comme ce monde-là, ils vont sortir de ça en disant « Hey, la prochaine étape, le prochain obstacle qui va se présenter à eux, ils vont faire... » Mais là, moi j'ai vécu deux ans de pandémie. Là. Tu penses-tu vraiment que le fait d'être isolé ou le fait de filer un petit peu tout croche un après-midi, ça va me déranger, tu sais? Ou mettons, tu vis une déception... déception à l'école, puis là, tu reviens chez vous, puis là, t'es down, puis là... Mais moi, je l'ai déjà vécu être down, tu sais, j'ai déjà passé à travers ça, fait que je pense quand même que, émotionnellement, puis pour les générations qui vivent ça, pour tout le monde, en fait, je pense que c'est un obstacle qui va juste nous faire grandir, tu sais, fait que je suis comme un petit peu plus positif depuis que j'ai vu ça comme ça, en fait.
Je pense que oui, mais je pense aussi la bonne chose, c'est que on peut aussi aider les gens à le voir comme tu le vois, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui a cette personnalité, tu sais, de voir les choses, puis de vouloir construire, puis c'est très, en tout cas moi, les gens que, tu sais, je pense aux étudiants que je dirais, les athlètes sont comme toi. Je m'aperçois qu'il y a comme des points communs. Il y a deux étudiants au doctorat, un qui est terminé puis une que je dirige présentement, qui sont des athlètes. Puis je remarque qu'ils ont ça comme façon de penser.
C'est la résilience, en fait. Puis la résilience, c'est ce qui fait que tu es capable d'être un athlète à un bon niveau, tu sais.
C'est ça.
Parce que des déceptions, tu vas en vivre à tous les jours là, de ta vie, là, tu sais.
Puis tu sais, tu te construis tout le temps, puis c'est dur, puis ça fait mal, puis on continue, tu sais. Mm-hmm. Puis les athlètes, ils se nourrissent aussi de cette difficulté, de la douleur même, tu sais, pour être résilient. Mais c'est pas tout le monde qui a cette personnalité-là.
Non, c'est sûr que non,
effectivement. Puis je pense que, justement, on peut apprendre aux gens à voir de cette façon-là. Puis j'aime ce que tu dis, tu sais, hey, on va se dire, on a passé à travers ça, tu penses-tu que là, c'est la petite affaire de perdre ma job, là? Hey, j'ai passé deux ans, moi.
Sans job.
C'est ça.
Non,
mais c'est vrai.
Oui, tout à fait.
Que j'aime ce que j'entends. Puis moi aussi, à un moment donné, je me suis dit ça parce que, tu sais, je disais que j'étais triste en regardant mes données, mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ça là, qui se passe.
C'est la vie.
Puis
eux autres,
ils vont
faire
être
d'autres.
Comme ça, puis nous, on va tous être comme ça. Moi aussi, je vais avoir passé à travers, puis la vie a été comme ça, puis on doit faire avec maintenant plutôt qu'aller contre. Puis on entend ça souvent, hein, quand on a mal en quelque part, arrête de lutter contre la douleur, puis va dans ta douleur, puis tu vas voir, ça va bien mieux se passer. Puis ça me fait penser à ça, ce que tu dis.
Tout à fait.
J'avais peut-être une petite question là, par rapport à ton étude, parce que nous, on a parlé de quelques réactions comportementales. Ouais. Je me demandais, les résultats de ton étude, ça ressemble à quoi jusqu'à maintenant par rapport aux jeunes adultes, mais aussi les familles? Est-ce qu'il y a des résultats?
Nous, les jeunes qu'on avait dans notre recherche, c'était jusqu'à 18 ans. Mm-hmm. Sinon, on avait des parents. Jusqu'à présent, comme l'urgence était surtout là, on s'est surtout intéressé aux adolescents mm-hmm. dans notre analyse des résultats. Donc, on a fait une première collecte de données à l'été 2020. Puis on vient d'en terminer une autre là, à l'hiver 2021. À l'été 2020, malheureusement, on s'aperçoit que les taux de détresse psychologique étaient plus de deux fois plus élevés que ce qu'on retrouve en temps normal avec une population mm-hmm. comparable. Mm-hmm. On avait près de 70 % des jeunes qui nous disaient être en très grande détresse. Il y avait beaucoup de dépression, alors que nous, on se serait attendu à de l'anxiété au début. Tu sais, on s'est dit « Ah, une situation inattendue! » Ça va créer de l'anxiété, on ne sait pas comment s'adapter. Mais en fait, ça semble être la dépression qui est chez les adolescents. Puis tu sais, c'est la dépression, c'est quoi la dépression dans les critères diagnostiques puis les symptômes de dépression? Bien, c'est d'être seul, la solitude, le fait de ne pas voir ses amis. Tu sais, c'est comme des critères de dépression qu'on a imposés aux gens. Mm-hmm. Fait qu'on a imposé aux gens de se comporter comme s'ils étaient déprimés.
Ça, oui,
c'est fait que c'est
ça,
comme si... Tu sais, on dit que de sourire rend heureux, mais peut-être que de s'isoler rend déprimé. C'est comme le pendant, finalement. Parce que nous, on s'est aperçu qu'il y avait ça chez nos ados. Puis dans la collecte qu'on vient de terminer, là, que les résultats, on commence là, à les regarder, bien, malheureusement, ça va pas mieux.
Ah, c'est ça que j'allais demander, justement.
Non, ça va pas mieux. C'est au moins aussi élevé que ça l'était à l'été. On a aussi demandé aux jeunes, qu'est-ce que tu trouves difficile? T'sais, on avait une portion qualitative où les jeunes, ils pouvaient écrire. Puis nous, première chose qui nous a surpris, ils écrivaient beaucoup. On s'attendait à un questionnaire en ligne. D'habitude, on clique, on est sur notre téléphone. Mais là, ils ont quand même beaucoup écrit de réponses longues. Puis ce qu'ils nous disaient, ce qu'ils trouvaient difficile, c'est qu'ils ont eu le sentiment d'être abandonnés.
Ouais.
Ils ont vraiment eu ce sentiment qu'on les oubliait, puis qu'ils étaient abandonnés dans ces mesures-là, puis dans ce qu'on leur demandait. Il y en a qui, puis comme vous le disiez tantôt, il y en a qui ont dit « J'ai l'impression que je passe à côté de ma jeunesse. J'ai l'impression que je passe à côté de ma vie. » Il y en a aussi qui nous ont dit que... je trouvais ça difficile au début à être seule, mais maintenant, j'ai même plus le goût de voir personne.
Oui, on a vu ça aussi.
Vous avez eu ça aussi, c'est surprenant, mais en même temps, c'est comme je vous le dis, on impose aux gens des comportements dépressifs de s'isoler, de l'isolement. Donc, ça l'engendre des sentiments dépressifs, des affects dépressifs, puis plus avoir le goût de voir les gens, tu sais. Moi, mon chum, qui est un adulte, tu sais, à un moment donné, il m'a dit, je m'inquiète, je suis en train de trouver ça normal d'être dans mon sous-sol devant mon ordi, tu sais. Tu sais, à un moment donné, c'est aussi le risque, hein?
Mm-hmm.
Fait que ça va être important qu'on récupère ça puis qu'on favorise la socialisation, là, quand ça va être possible. Parce que, à un moment donné, on commence à être habitué à tout ça, tu sais? Puis on se demande, est-ce qu'on va... Ça sera pas comme avant. La vie, comme tu l'as dit, tu sais, PH, on va avoir vécu à travers ça, puis il y aura plus rien comme avant. Il y en a plus d'avant. C'est maintenant, c'est le présent, puis maintenant, on va s'intéresser au futur. On veut pas revenir en arrière, tu sais.
Ouais.
Fait qu'on s'en va en avant. Mais en avant, ça va être comment, la socialisation? Puis c'est important d'y penser. Fait que nos résultats à date, ils tournent alentour de ça, mais on a aussi beaucoup de positifs, là, tu sais, des jeunes qui... j'ai fait du sport, j'ai été avec ma famille, j'ai jamais passé... Je connais mieux mon père maintenant, tu sais, qu'avant. Fait que ça, c'est le fun, c'est positif. Les animaux de compagnie aussi. on s'attendait pas à ça, mais tu sais, beaucoup qui ont dit « Ah, oh, mon chien m'a vraiment aidé, mon chat... » Tu sais, fait qu'on a eu beaucoup de réponses animales de compagnie aussi.
Puis c'est super intéressant parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a vu. Nous, on a vraiment regardé les 18 et plus. Puis ça, on a été surpris, mais semi-surpris en même temps parce que comme un peu dans la même optique que PH discutait un peu plus tôt, nous, on était comme, OK, est-ce que la COVID, c'est un trauma? Nous, ça a été vraiment comme notre grosse question. Est-ce que c'est traumatique? Puis pourquoi? Puis ça, on s'entend que la définition de trauma, pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, puis c'est pas tout le monde qui va dire que la COVID, c'est traumatique, puis c'est correct. Ça dépend vraiment de comment tu définis ça. Mais on a quand même vu que, tu sais, en prenant des questionnaires sur les symptômes de stress, des symptômes qui sont associés avec troubles de l'adaptation, avec troubles de stress post-traumatique, il y a quand même... à peu près 60% des gens qui ont répondu à notre questionnaire, tu sais, qui ont rapporté tellement de symptômes que comme dans un contexte clinique, si tu regardes ça, tu regarderais ça, tu ferais comme, je pense que je vais t'évaluer un peu plus parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas bien. Tu sais, encore là, ça a été en début de pandémie, ça devait, tu sais, c'était encore très récent puis tout ça. Mais comme, tu sais, il y a, tu sais, puis on parle pas nécessairement de troubles de stress post-traumatique, là, tu sais, on parle vraiment des symptômes, donc faut pas non plus s'alarmer avec, mon Dieu, tout le monde va avoir des flashbacks puis des cauchemars puis tout ça. Mm-hmm. Mais ça reste quand même des symptômes qui sont présents, qui sont importants puis qui étaient comme, ça venait chercher, ça venait vraiment chercher puis d'être comme, OK, ça vient vraiment pogner les gens comme ça, ça a vraiment des conséquences, puis à travers beaucoup de pays, là, parce que les données qu'on a eues, c'est du Canada, c'est de la France, c'est de l'Italie, c'est des États-Unis, c'est un peu de la Chine aussi. Fait que c'était de voir ça aussi, c'est pas juste nous ici, c'est vraiment, tu sais, ça, un peu comme quand on en parle avec Rémi dans nos intros, c'est partout, c'est global, puis autant que comme il y a quelque chose de qui peut faire de la peine puis être choquant par rapport à ça, autant que quelque chose là-dedans, je pense, qui de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, comme mm-hmm. OK, cool, genre, mais cool, pas cool, on s'entend, mais comme hey, on n'est pas tout seul, genre on est vraiment beaucoup dans cette situation-là, de là justement l'idée à travers le podcast de normaliser comme je suis pas toute seule, ces réactions-là sont normales, mais aussi après tout trauma, souvent il y a ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Que je suis contente que tu aies apporté ça parce que ça me permet un peu ça permet d'aller là-dedans. Il y a vraiment ce phénomène-là de croissance post-traumatique qui vient après des événements stressants comme la pandémie. Il y en a qui sont déjà rendus à travers certaines opportunités qui ont été prises, comme Catherine t'a mentionné, les athlètes qui se rendent là probablement plus rapidement que d'autres. Il y en a qui sont pas encore rendus là, puis je pense que c'est correct. Je veux quand même anglicisme, ça s'en vient, acknowledge, je veux quand même acknowledge que comme, reconnaître, merci, que comme c'est normal pour certains de pas encore être là, puis c'est normal que comme pour certains, ce soit encore de vivre avec les émotions, mais finalement un peu d'espérer ou de regarder en avance, disant comme, mais éventuellement, moi aussi, je vais arriver à ce temps-là de croissance post-traumatique, finalement. Là.
Mmh. Ouais. Effectivement. Puis dans ça, mettons, dans cette idée-là d'arriver vers une croissance, il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de fin.
C'est ça.
Tu sais, souvent, t'entends, tu sais, on entend surtout maintenant, là, tu sais, j'ai assez hâte que ça arrive. J'ai assez hâte que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? C'est que tu traverses un panneau qui dit fin, tu traverses là, puis c'est comme, ah, OK, ben là, je peux mourir maintenant, c'est fini, tu sais. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mettons, dans l'idée de dire, c'est juste une croissance continue. Mm-hmm. Puis, quand la COVID va finir, on n'a pas fini d'être dans nos têtes, on n'a pas fini d'être... puis c'est jusqu'à temps qu'on meure, là, c'est jusqu'à la fin de notre vie qu'on est confronté à soi-même, à des traumas, à des choses comme ça. Fait que ça en est un plus qui est gros, puis mais qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, tu sais.
Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire là, qui me font sourire. Là. Parce qu'en fait, la vraie raison pourquoi je me suis intéressée à la COVID, tu sais, aussi, en plus, tu sais, de vouloir développer, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait pour les jeunes, c'est que moi, avant mes intérêts de recherche, là, tu sais, comme chercheur, je m'intéresse au trauma, tu sais. Mm-hmm. Puis je m'intéresse donc au trauma, puis d'habitude, c'est chez les jeunes contrevenants, là, mm-hmm. ou chez d'autres populations à risque. Puis là, je me suis rendu compte que tous les jeunes étaient maintenant une population à risque. Puis, ben, je voyais la COVID comme une situation expérimentale imposée à tout le monde. Parce que je me suis dit, go, sautons dans l'occasion. Que moi aussi, je partage cette idée de trauma, tu sais, parce qu'on a senti notre propre vie ou celle des autres être menacée. Tu sais, c'est mm-hmm. le premier critère diagnostique. On peut pas être traumatisé de quelque chose s'il n'y a pas eu une situation potentiellement traumatique. Et j'utilise bien potentiellement. Exactement. Parce que c'est pas pour tout le monde que c'est un trauma, tu sais. Ouais. À la blague, j'ai un collègue qui me disait, dis-moi, je trouve ça vraiment bizarre, là, tu sais, mes enfants, ils vont pas à l'école puis tout ça, mais moi, je me rends compte, ma vie, elle a pas changé, je suis toujours derrière mon ordi puis tu sais, de toute façon, j'étais geek avant, je continue de l'être, tu sais. Fait que il y en a pour qui ça a pas été si traumatique, même si c'est la même situation. Mm-hmm. Puis l'autre chose, quand tu disais, tu sais, vas-tu avoir une arche là, post-COVID, là, tu sais, ça me faisait penser à ma fille qui a 7 ans et demi, là, je rappelle, qui elle, elle me dit toujours, tu sais, maman, quand il n'y aura plus la COVID, on va-tu pouvoir faire ci, tu sais, après la COVID. Mais, mm-hmm. tu sais, c'est une pensée magique. Tu sais, je trouve qu'on est dans le monde des licornes, tu sais, ouais. de penser qu'il va y avoir un après COVID. Mais elle, à 7 ans et demi, c'est bien correct qu'elle voit comme ça, là, ouais. l'arche avec l'arc-en-ciel, tu sais. Mais.
Comme une pause figée dans le temps temporaire qui va faire que là, OK, non, on était de même. Là, on a vécu 2 ans, puis après ça, on revient exactement où
c'était. Exact, on va vous donner la date post-COVID.
Ah,
je pense pas que ça
voici
va
arriver. Voici la fin de la COVID.
Ça a quand même créé beaucoup de discussions, ça, justement, l'arc-en-ciel. De, est-ce que c'est de la positivité toxique? Je sais pas si... Ouais, tu sais, ça a tellement créé des questions, des discussions, puis ci, puis ça, de comme... OK, cool, genre, faut être positif, mais faut aussi être réaliste.
Ouais.
Ouais. Mais savez-vous ce qu'il y avait de bien dans vous parlez du mouvement, là, ça va bien aller ouais. les arcs-en-ciel. Mais je trouve que dans tout ça, c'est vrai qu'on s'est tanné, là, puis là, on est dans l'épuisement, puis ouais, dans le long là, terme. Ça, ouais. Mais ça l'a créé quand même ce que tu disais, PH, de on passe tout à travers la même chose. Ouais. Ça l'a créé cette espèce de communion de tout le monde qui se dit, OK, ça arrive à tout le monde, là, mm-hmm. présentement. Mm-hmm. Ça vient normaliser qu'est-ce qui arrive, puis de créer une genre de synergie, puis de se sentir moins isolé, parce qu'on isolait tout le monde chez eux, mais les enfants faisaient des arcs-en-ciel dans les fenêtres. Fait que l'enfant qui fait l'arc-en-ciel dans les fenêtres, ça lui donne un sens. Mm-hmm. On essayait de donner un sens à ce qu'on vivait, puis à s'adapter. On pensait que ça serait pas si long, mais je pense que ça a été super positif et bien. Mais avec le temps, je trouve que c'est vrai là, qu'on est tanné. Là. Plus mm-hmm. les arcs-en-ciel, on n'en veut plus trop. Puis moi, pour mon projet de recherche, si on fait des infographies des fois, puis je dis, là, mais pas d'arc-en-ciel multicolore. Tu peux mettre un arc-en-ciel un peu stylisé si tu veux, juste une couleur, c'est correct. Mais on a assez du multicolore, tu sais. Mais les enfants, ils continuent d'aimer ça, puis c'est bien correct, là, tu sais.
je sais pas si vous vouliez aller là, non, mais juste pour rebondir sur ça, tu sais, le début de la pandémie, moi, je l'ai vu vraiment positivement. T'sais, le premier confinement, là, j'ai vu tout le monde comme se joindre ensemble. Puis là, c'était on encourage l'achat local. Puis là, c'était OK, finalement, est-ce qu'on pourrait s'autosuffire au Québec? T'sais, est-ce qu'on est capable, juste le peuple québécois, d'être vraiment. T'sais? Puis là, j'étais comme crème, OK, référendum en sortant de la pandémie, on fait ça, puis c'est reparti. T'sais? Puis, sauf qu'après ça, je pense que ce qui s'est passé, c'est que. Plus ça devenait difficile pour les gens vulnérables, mentalement vulnérables, tu sais, avec déjà des préconditions qui faisaient que là, ça devenait dans leur solitude, c'était encore pire. Puis là, tu sais, avec la montée, évidemment, de tout plein de mouvements, où est-ce que là, tout le monde a leur tribune, ses réseaux sociaux, là, il y avait comme une minorité bruyante qui a fait que, OK, là, on sent que là, toute la cohésion, du pays, du Québec, on l'a comme perdu un peu. Puis je pense que c'est un peu là qui s'est arrivé avec l'essoufflement aussi, tu sais, de cette espèce de mouvement-là. Mais somme toute, je pense qu'on va collectivement grandir de ça, tu sais.
Mm-hmm. Oh,
à la fin de tout ça, grâce à l'espèce de cohésion. Parce que finalement, encore une fois, puis ça, c'est le problème des réseaux sociaux, puis on n'est vraiment pas obligé d'embarquer là-dedans, mais c'est la minorité bruyante tout le temps. Mm-hmm. C'est toujours, toujours, toujours la minorité bruyante qui teinte la perception de la collectivité, tu sais. Puis moi, je pense qu'on est extrêmement majoritaire à être tout le monde ensemble là-dedans, puis qu'il y a quelques moutons noirs qui crient plus fort que toutes les autres. Là.
Oui, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que justement, notre prochain et dernier épisode, c'est sur les médias sociaux.
Mm-hmm. Ah, ben
ça, ça va être tac, ça va être assez intéressant, ça, c'est sûr. Puis en fait, je proposerais qu'on passe aux questions, aux témoignages. Donc, juste pour donner un peu de contexte pour ceux qui ne nous ont pas suivis pendant les derniers épisodes. Donc, avant de faire ce podcast-là, on a passé un questionnaire à travers la communauté chez les 18 à 30 ans pour leur demander « Ah, ben voici les thèmes qu'on va aborder. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des expériences que vous voulez partager avec nous? » Puis un truc que Catherine était particulièrement intéressée, qu'on s'est vraiment intéressé aussi à force de le demander, à force de recueillir les réponses des gens, c'est les points tournants. Les mm-hmm. points tournants pendant la pandémie, c'était vraiment cool parce que PH, t'as abordé un des tiens aussi. Puis on va partager un peu ça pour comme, continuer à alimenter la discussion.
Super, cool.
Excellent.
Est-ce que tu veux commencer par un point tournant ou un témoignage?
On est allé dans un point tournant.
OK, let's go. Je peux commencer. Donc, il y a Isabelle, 24 ans, qui est employée à temps plein. Elle nous dit « J'ai essayé d'adopter un comportement positif tout au long de cette pandémie. Les Zoom calls entre amis étaient de plus en plus communs. Tout le temps vide, dans le fond, elle dit que c'était tout le temps vide durant le premier confinement. Puis, ça nous a donné l'opportunité de rénover avec des gens qu'on avait perdus de vue. Par contre, elle dit que mais passer Noël loin de ma famille, ça a été le plus difficile pour elle. Puis, de plus en plus, les Zoom calls se faisaient de plus en plus rares. Puis, c'est là qu'elle a remarqué que non seulement cette pandémie sépare les personnes physiquement, mais selon elle, aussi moralement. Ça, c'est ce qu'elle nous partageait. Je ne sais pas si vous avez...
Je trouve qu'on voit justement ce dont je vous parlais, tu sais, que les gens, ils commencent à être... Tu sais, c'est comme une fatigue pandémique, là, on pourrait l'appeler comme ça, qui semble être partagée aussi, puis ce qu'elle nous dit, elle. Mais c'est un peu ça, tu sais, au début, on se mettait en action, non, mais là, elle a comme plus d'énergie, tu sais, pour le faire, puis que ça devient difficile. Puis c'est là que je dis qu'il faut donner un petit coup de pouce, je pense, tu sais, dans ce cas-là. Comment on peut faire? Bien, on pourrait l'appeler, elle, tu sais. On pourrait faire autre chose qu'un Zoom call, là. On pourrait peut-être juste s'appeler au téléphone sans vidéo, puis se faire des dessins en même temps, se l'envoyer par la poste, tu sais. Je dis n'importe quoi, mais je pense que, tu sais, il faut justement essayer de faire les choses différemment puisqu'on peut plus avoir ce contact physique et cette proximité, tu sais, qui permet de communiquer, hein, finalement.
Puis Noël, c'est tu sais, des fêtes comme ça qui sont inconnectes. Tu parlais du Super Bowl tantôt. Moi, le Super Bowl aussi, tu sais, avec mon père, c'était à chaque année, là, tu sais, on écoutait le Super Bowl toutes les années avec mes cousins, on se faisait une fiesta, tu sais. Fait que ces moments-là, c'est sûr que c'est vraiment difficile. Nous, ce que je me suis dit pendant le temps des fêtes, c'était, OK, là, check, prends des vacances, tu sais. Prends juste des vacances parce que Noël, c'est à chaque année depuis que je suis tout petit. Là, je vais prendre une pause, puis je serai juste plus content de voir tout le monde. T'sais. Puis je préférais voir ça de même que de dire je vais aller voir mon grand-père, puis risquer qu'il soit pas là quand on va revenir l'année prochaine, t'sais, à cause de cette action-là. T'sais. Fait que, mais non, c'est sûr que c'est difficile, puis c'est sûr que ça a un lien avec la fatigue qu'on parlait. T'sais. Puis l'idée, mettons, des Zoom calls, puis de faire des activités, une des meilleures façons de générer de l'énergie, selon moi, c'est d'en dépenser.
C'est ça.
T'sais. Puis si tu tombes dans un pattern où est-ce que tu fais « Ah, là, t'es dans ton lit, tu dis « J'ai pas envie de rien faire, j'ai pas envie de sortir dans un parc », la meilleure façon d'avoir envie de sortir dans un parc, c'est de sortir dans un parc, puis c'est de bouger, puis c'est que le lendemain, t'as de l'énergie, t'en as plus, puis tu sais, moi, évidemment, dans le sport, c'est ça qui s'est passé, tu sais, c'est si tu t'entraînes pas, tu n'auras pas l'énergie d'aller t'entraîner. Si tu t'entraînes, par exemple, ça devient vraiment facile, puis tu as tout le temps plus d'énergie, tu sais. Puis ça, je pense que il y a beaucoup de courants de pensée sur que ce soit la nutrition ou que ce soit le sommeil, mais il y a pas vraiment un courant de pensée par rapport à l'activité physique, puis c'est faisant, tu sais. Puis plus t'en fais, plus tu vas en avoir de l'énergie pour faire autre chose. Puis là, je parle d'activité. T'es pas obligé d'aller courir 20 km. Là, tu peux juste aller te promener avec tes parents à 2 mètres de distanciation dans un parc, tu sais. À la place d'être sur Zoom, là, tu sais. Sur Zoom, en plus, c'est quand on parle, tu sais, comme aujourd'hui, on parle, puis on donne de l'énergie, puis les autres nous en renvoient, tu sais.
Oui.
Mais quand t'es devant ton écran, il n'y a pas le retour. Fait que tu finis ton call de Zoom, t'as juste envie d'aller te mettre en boule dans ton lit. T'as pas eu... c'était le fun, mais c'était pas la même chose, tu sais. Fait que, tu sais ça, voir les gens, au moins pour réavoir un petit peu d'énergie, en donner, en dépenser, puis en générer aussi, là, tu sais.
Ouais, puis être vigilant de quand ça commence à baisser, parce que ce que tu dis, tu sais, que quand on fait des choses, quand on se met en action, on a plus d'énergie, c'est tout à fait vrai. Mais à un moment donné, on est tellement plus d'énergie qu'on n'est même pas capable de se réactiver.
Ouais, c'est ça, exact.
Fait faut être vigilant de quand ça commence à diminuer. Let's go, va-t'en. Tu fais que les amis d'elle disent « Viens-t'en. » Viens-t'en dehors, tu sais, avant d'être trop rendu down, puis qu'on n'ait pas le goût du tout d'y aller. Puis l'autre chose avec Zoom, ben c'est que, en tout cas, moi, ma job, là, je la fais toute devant un ordi, là, présentement, puis avec des Teams, Zoom, etc.
Ça te sort pas de ton...
Ben, là, moi, mes amis, là, Zoom, non, jamais. Je vous disais, j'en ai fait un avec des amis depuis le début de la pandémie. Il n'y a pas question, là, je fais juste ça, tu sais. Je ferai pas ça en plus, tu sais.
Dans le fond, c'est des appels téléphoniques ou...
Ben, mettons, cet hiver, on est allé en ski de fond, par exemple, tu sais, à distance, c'était possible. J'ai fait du ski alpin avec ma fille, avec un masque. Donc, on a fait des choses comme ça. Mes amis, on s'est vus aussi à distance dans des parcs, des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, Zoom, pour les relations sociales, je trouve que c'est une bonne idée dans le principe, mais personnellement, ça ressemble trop à mon, à mon travail. Ouais,
c'est pas la même chose. C'est pas des interactions humaines. Non. C'est pas la même chose.
Non, non, exact.
Ouais. Je suis d'accord parce que, en fait, c'est quand même ironique. C'est exactement ce qui est arrivé hier. Nous, les vendredis, là, on est ben trop en Zoom. C'est toutes nos rencontres sont le vendredi. Puis comme, tu sais, c'est... Tu penses à vendredi, tu te lèves le vendredi puis t'es comme, OK, cette journée-là est courte, mais est drainante parce que tu fais tout sur Zoom. Puis hier particulièrement, j'avais comme d'autres... tu sais, j'avais d'autres trucs en fait en plus qui faisaient en sorte que j'étais sur Zoom de 9h30 le matin. Puis là, il est arrivé comme 5h, je pense, que là, Juju puis Justine puis Rémi, ils sont comme, ah, oh, Marjo, faudrait qu'on pratique pour demain, faudrait qu'on se prépare. C'est comme... Je suis plus capable. Ouais. Comme, faut que je sorte. J'ai plus d'énergie. J'avais envie, comme, j'avais juste envie de, comme.
Marcher dehors.
Ben, pis même plus. J'avais même plus envie. J'étais un peu comme t'as dit, je voulais juste me rouler en boule dans mon lit, pis d'être comme, je veux juste que ça arrête. Pis le pire, c'est que je le savais qu'après, il fallait qu'on prépare pour aujourd'hui, tu sais. Fait que. J'étais comme, OK, mais comme on pousse, puis pas plus que 20 minutes. Finalement, ça a duré 45 minutes, là, notre rencontre. Fait qu'on est resté. Puis là, à 5h45, j'étais comme, OK, non, j'étais curée. Je me pousse, puis ça m'a tout pris pour sortir dehors. J'étais comme, j'ai même plus envie. Puis là, j'étais comme, non, faut que t'ailles à la pharmacie. Fait que là, je me suis rendue à la pharmacie. Puis là, j'étais comme, OK, non, ça fait pas longtemps, je continue dessus un peu plus. Parce que moi, dans le fond, je suis dans NDG. Puis comme Monkland, c'est une super de belle rue avec plein de petits cafés. Puis je suis comme, il fait encore soleil. Je vais en profiter. Fait que finalement, comme ça m'a tout pris, mais justement en faisant le coup de comme non, j'ai besoin de faire ça, d'aller à la pharmacie, puis finalement faire on va remonter, on va continuer, tu sais, juste de sortir de ça après, j'ai pu retourner chez nous, puis tu sais, continuer à faire mes affaires. Mais,
tout à fait.
Faut pas attendre d'avoir le goût, hein. Tu sais, là, tu parlais de ton camp d'entraînement de 30 jours. Moi, je m'entraîne depuis toujours, puis j'en ai vraiment besoin. Sinon, ben, je suis pas du monde, là, pauvre ma famille, là, tu sais. Parce que moi, c'était à tous les jours, là, tout le monde le sait, puis ça, c'est un intouchable. Puis des fois, moi, je m'entraîne dans mon sol, tu sais, je fais du vélo, j'ai un tapis roulant, je fais tout. Bon. Mais c'est un intouchable. Même si la journée là est overbookée, là, puis tu sais, souvent pendant la pandémie, moi, je me suis entraînée à l'heure du souper. Fait que mon chum et ma fille mangent ensemble, ben moi, bye, je m'en vais au sous-sol, dérangez-moi pas pendant l'heure. Puis si vous venez me voir parce que vous chicanez, je suis comme, non, je n'entends pas, je m'entraîne, tu sais. Mais même si j'ai pas le goût d'y aller, j'y vais. Puis c'est ça qui me donne mon souffle, hein. Puis après, je deviens vraiment plus zen, puis tant mieux pour eux autres. Puis sûrement que ça coûte moins cher de SAQ, là.
Oui, c'est exactement ça.
5 fois sur 7, ça me tente pas d'aller m'entraîner. 5 fois sur 7. Mais comme la seconde que c'est starté, c'est fini. Puis on a reçu, au Sans Fil Podcast, on a reçu Sonia Lupien, là, qui s'intéresse au stress. Puis elle nous parlait du concept de l'énergie mobilisée. Fait que ça, c'est, mettons, quand tu passes ta journée à faire des meetings, t'es sur Zoom, puis là, t'as une espèce de brain fog, là, tu sais. Puis là, t'es comme... T'es pas fatigué physiquement, mais t'es comme, OK, non, je suis plus capable de réfléchir, je suis plus capable de... J'ai pas envie de rien faire. C'est un peu ce que tu décrivais, là, après une journée de 9 à 5 à faire, là, OK, non, là, je vois plus clair, tu sais. Elle disait, bouge, fais quelque chose. Puis là, dépense l'énergie mobilisée parce que c'est ton corps qui crée de l'énergie parce qu'il y a une réaction de stress.
Ouais. Ouais.
Sauf que cette énergie-là, quand tu es assis sur Zoom de même, puis elle, ce qu'elle disait, elle dit tout le temps, c'est les mammouths qui rentrent dans la pièce. Fait qu'elle dit, quand ton corps, il est stressé, fait que là, il crée de l'énergie comme s'il y avait un mammouth dans la pièce, mais il était sur Zoom. Là. Tu es chez où, dans la bobette, dans ton salon? Sur Zoom, il n'y a pas de mammouth dans la place. Puis, fait que là, elle dit, il faut que tu dépenses cette énergie-là que ton corps crée, parce que c'est ça qui crée une espèce de flou puis de mind fog, là, en fait. Puis, ce que tu disais, c'est exactement ça, tu sais. Elle a dit, je vais promener mes chiens, je chante dans la cuisine. Moi aussi, je vais courir, tu sais.
J'avais demandé, toi, pendant la pandémie, c'était quoi ton... Est-ce que tu t'entraînais chez toi ou tu sortais de l'espace pour sortir?
Moi, je suis à Verdun, fait que Verdun, puis j'étais à 300 mètres du fleuve, là, tu sais. Je vais courir le long du fleuve, puis j'ai fait ça tout l'hiver, tout l'été. Je fais ça tout le temps, puis moi, c'est je vois le fleuve, j'ai l'air d'en face, puis c'est parfait pour moi, là. C'est ça que je fais.
C'est tellement beau.
Ou je vais nager dans des piscines extérieures l'été.
OK.
Il y a tu viendras dans ma piscine, je t'attacherai à mon balcon.
Ouais, c'est ça.
On va tous inviter l'équipe du podcast. On va amener Marie-France pour les cocktails. Puis il y a tellement un beau spot à Verdun, là, comme j'ai vu une de tes stories, puis j'étais comme, oh, comme je sais pas si tu sais le natatorium.
Ouais. Ouais, j'habite en haut de ça, là, à 300 mètres du natatorium.
Puis là, tu sais, il y a un quai l'été, ouais, là, quand il fait noir, là, parce que dans le fond, nous, on est souvent Douglas, tu sais, c'est là qu'on fait nos recherches, puis tout ça. Puis il y a des terrains de beach, fait que nous, on joue souvent là-bas l'été, ouais, pas tant l'été passé, là, mais on joue souvent là-bas, puis justement, comme les meilleurs souvenirs des étés passés, pré-COVID, que j'ai, c'est... on est dégueulasse, on est toute crasse, plein de sable partout, puis on fait juste aller sur le quai, sauter dans l'eau.
Sauter dans le fleuve, ouais.
Puis quand il fait noir, tu vois toutes les lumières de la ville.
Ouais, comme... c'est vraiment beau. C'est vraiment un cool spot, là.
Je connais bien aussi, ouais.
Ouais. Ça, là, props. Puis on va continuer avec un témoignage, juste pour qu'on puisse... Ouais, je m'excuse, ça commence à dévier partout, mais on aime ça. Donc, un témoignage, il y a Jason de 23 ans, qui est étudiant et professionnel, qui dit « C'est particulier puisqu'avec ma vie habituelle très chargée et sans beaucoup de temps libre avec tous mes engagements, projets, implications, etc., j'apprécie la pandémie parce qu'elle m'a permis de prendre plus de temps pour moi, prendre du recul sur mes priorités et importance relative des choses. L'importance de mon temps personnel a pris une place différente. J'ai appris que je devais savoir dire non à des projets et arrêter pour prendre du temps pour moi et relaxer. »
Ouais. Écoute,
je trouve que ça dit tout, là.
Ça dit tout. Là. Je pense que, tu sais, il y a eu beaucoup de... On a parlé beaucoup de self-care, là, pendant la pandémie. Puis moi, je pense que le self-care, il n'y a pas de recette universelle, là. Je pense qu'il faut que tu trouves ton self-care. Tu sais, moi, mettons... m'asseoir, prendre un bain, mettons, ça fait rien pour moi, là, tu sais, tandis qu'aller courir 25 kilos, c'est du self-care pour moi, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est comme, je pense qu'il s'est trouvé de recentrer vraiment sur qu'est-ce qui fait que t'es bien, tu sais, dans ton corps, dans ta tête, c'est de trouver ça. Puis évidemment, étant donné qu'on n'est pas étourdi par avoir constamment des activités sociales, constamment des choses à faire, ça nous laisse plus le temps de se recentrer sur soi-même puis de trouver c'est quoi vraiment... c'est quoi que t'aimes, en fait? Parce que, tu sais, quand t'es seul avec toi-même, t'as pas le choix de trouver c'est quoi que toi t'aimes.
Ouais, c'est ça.
Parce que tu le fais pour personne d'autre. Y a pas de pression sociale de faire quelque chose, là, tu sais. La seule affaire que tu fais, tu le fais pour toi, dans le fond, là, tu sais.
Ouais. C'est ça qui arrive, hein, un point tournant, puis un événement potentiellement traumatique aussi. Quand on réussit à... quand on va vers la croissance post-traumatique après le trauma, mais ça devient un point tournant où on n'a même plus envie que ça soit pas là. Hein? Oui. Les gens qui ont vécu de très grands traumas, des maladies dans leur vie, ils vont dire « Jamais je voudrais ne pas avoir vécu ça parce que maintenant, je me connais mieux. Oui. Maintenant, je suis plus en paix avec moi. » Donc, comme lui qui dit « Maintenant, je sais qu'est-ce que je fais la part des choses, hein, tu sais, les choses sont relatives. Mm-hmm. » Ça nous apprend donc à s'accepter dans l'entièreté de qui on est, puis de pas vouloir revenir en arrière, tu sais, de pas vouloir que la COVID ait jamais existé parce que ça l'a amené du bon, finalement. Mm-hmm. Fait que c'est ça, la croissance post-traumatique. Mais il faut justement avoir passé à travers le premier trauma, le premier d'être déstabilisé, puis d'être fâché, puis tout ça, tu sais, c'est dans les étapes de croissance post-traumatique, justement. Donc, le fait de trouver un sens à l'événement. Donc, le sentiment de trouver un sens de ce qui se passe, ça l'aide vraiment à l'adaptation. Les gens qui ont vécu des catastrophes naturelles aussi, c'est ça qui arrive, c'est la cohérence. Donc, le sentiment de cohérence fait partie de la croissance post-traumatique. Puis quand on arrive à faire un sens de ce qui se passe, bien, ça va être bien plus facile de s'y adapter. C'est la même chose pour des gens qui ont vécu, justement, des catastrophes naturelles, puis qui sont capables de voir, OK, là, maintenant, je veux pas que ne jamais avoir vécu ça, parce que maintenant, je suis bien mieux que ce que j'étais avant, tu sais. Lui, c'est un peu ça qu'il nous dit, là.
Puis je trouve ça le fun quand tu parles de ça. Quand tu parles comme ça, ça me donne quasiment des frissons, parce que tu rentres vraiment dans nos intérêts aussi. Mais ce que je trouve le fun avec ça, en fait, dans ce que tu dis, ce que je vois aussi, c'est que tout ce qui arrive comme ces événements-là, que ce soit la pandémie ou que ce soit un autre événement potentiellement traumatique, j'aime vraiment comment tu dis ça, potentiellement traumatique, puisqu'évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, c'est que ça devient une partie de ton identité. Si on revient à l'identité, c'est que ça, cette expérience-là s'intègre à comment tu te définis, puis s'intègre, puis un peu comme PH, tu disais plutôt, on va s'en rappeler longtemps de tout ça, là, puis on, si on a des enfants ou des neveux, des nièces, peu importe, comme tu sais, quand on va parler aux générations comme futures, moi, je pense qu'on va leur péter les oreilles longtemps avec comme, j'ai vécu la COVID, là. Puis, en tout cas, puis là, tu sais, plein d'histoires comme ça. Fait que ça va vraiment, tu sais, ça, c'est que ça shape vraiment notre identité. Tu sais, c'est ça aussi qui est.
J'allais dire, on va leur casser les oreilles jusqu'à temps qu'il y ait une autre pandémie, mais que là, ça s'attaque à tout le monde, puis ça gruge les jambes, là. Mais non, mais moi pour rebondir encore sur cette idée-là, tu sais. Moi, j'ai réalisé, la pandémie m'a fait réaliser que mon cellulaire et les réseaux sociaux étaient une source de stress énorme, puis que, la proximité que j'ai avec mon cellulaire est corrélée à mon niveau d'anxiété. Ouais. Là, t'sais? Fait que genre, s'il est dans une autre pièce, je suis pas mal mieux que s'il est dans ma poche. T'sais?
Ouais.
Puis ça, ce que ça a fait, c'est que là, maintenant, j'ai pris le moyen de me mettre en mode avion les week-ends ou les soirs quand j'ai rien là, qui se passe là.
Mm-hmm.
Puis mon niveau de bonheur a augmenté grandement, puis c'est que ça va rester là. C'est sûr ça va rester post-pandémie, puis parce que pandémie on était juste collé là-dessus, fait que c'est pour ça que je m'en suis rendu compte, mais là ça va rester, c'est sûr. Tu sais, les week-ends dans le fond là, c'est quoi le pire qui va arriver que je vais manquer? T'sais, c'est que la mortalité dans ma famille, je l'apprendrai lundi matin. Là, t'sais, ça va pas me rendre moins triste de l'apprendre deux jours après. T'sais, fait une fois que tu remets ça en perspective, moi, c'est quelque chose que je vais regarder beaucoup de ça.
J'aurais deux autres questions, puis je voudrais vraiment qu'on les aborde parce que c'est vraiment le podcast comportement. Mais on aurait Juliette, qui est travailleur autonome. Elle nous demande, que faire avec un adolescent qui se désintéresse de l'école, qui n'a plus de motivation? Donc, quand t'es le parent, puis tu vois, justement, moi, ma soeur est au cégep aussi, puis zéro motivation à aller à ses cours. C'est pas motivant nécessairement. Mais autant pour le prof, comme on disait tantôt, d'être devant des écrans, pas de caméra, mais aussi pour l'étudiant, c'est moins motivant des cours en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là?
Ma réponse va être la même réponse que j'aurais donnée si on n'avait pas été pendant la pandémie. Mm-hmm. La première réponse, c'est on pourrait se demander d'abord pourquoi. Engager une conversation réelle, sentie, faire confiance à son adolescent qui va nous dire le vrai pourquoi des choses, puis essayer de trouver des solutions avec lui ou elle.
Mm-hmm.
Parce que les adolescents, ils nous l'ont montré, ils ont une capacité de réflexion sur eux-mêmes formidable, sont créatifs, puis il faut trouver des solutions, mais aussi reconnaître que c'est difficile actuellement. Les étudiants qui vont à l'école une journée sur deux, au cégep, tu sais, ceux-là qui sont rentrés au cégep en septembre 2020, là, ils n'ont pas eu de bal définissant. Mmh. C'est fondateur, un bal définissant. Oui. C'est pas juste plate de ne pas l'avoir eu. C'est fondateur, puis ça fait partie. Puis toute l'adolescence, on se dit, j'ai donc hâte d'aller à mon bal définissant. Puis là, bang, ça tombe. C'est un deuil, c'est un renoncement majeur. Fait que de comme parent, là, de dire, je comprends là, ce que tu vis, c'est super dur. Je sais pas comment j'aurais fait à ta place. Je te trouve bon, je te trouve bonne, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est ça, cette maman-là, probablement, qu'elle trouve bon ou bonne son adolescent, puis elle veut qu'il poursuive les études. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins dur pour toi? Ton ordi, ça serait plus le fun, peut-être qu'il soit dans la cuisine, tu sais. Mais go dans la cuisine, là, c'est pas grand-chose, tu sais. Fait que je pense que souvent, c'est très simple ce qu'on peut trouver comme facteur de motivation, mais reconnaître la détresse, reconnaître qu'est-ce qui se passe, faire confiance aux ados, puis ben des fois aussi faire des marchés, tu sais. T'es-tu d'accord, tu finis ton année, puis après on en reparle, ou t'aimes pas ça cette école-là, on va changer d'école, tu sais. Je pense que faut faire preuve de souplesse comme parent, là, mais j'ai pas toutes les bonnes réponses, là. C'est, ce n'est que des pistes, là, que je propose.
Mais je pense que ça va aider aussi, quand même. Est-ce que toi, tu avais une autre question?
Oui, mais une petite question rapide. Donc, on a Léa de 21 ans qui est étudiante universitaire, qui demande comment ne pas s'isoler de son entourage.
Oui, là, là.
C'est une grosse question. Je pense qu'on on se la demande un peu toutes. C'est pas évident non plus, là. Fait que...
Je pense que c'est de se forcer à faire des choses, tu sais. Même si des fois ça te tente pas, c'est de se forcer à voir ton monde, tu sais, te forcer à aller prendre des marches, à faire du ski de fond. Je pense pas qu'il y a trop d'autres secrets, tu sais. Parce que c'est sûr qu'après deux zooms, ça te tente plus, là. Nous autres, ce qu'on a fait avec mon groupe d'amis, c'est qu'on a commencé à. Il y a plein de. de Escape Room qui ont transféré leur business en ligne. Okay. Fait que là, t'es comme, tu te connectes sur Zoom, sauf que là, tu fais un Escape Room ensemble. Fait que c'est comme pas juste la... Tu fais pas juste te parler puis pas trop savoir quoi te dire. T'sais, tu collabores pour essayer de sortir de la pièce. Il y a quelqu'un avec une GoPro dans une pièce puis là, tu diriges la personne. Oh, cool. Sinon, il y a des jeux comme GeoGuessr. Nous autres, ça, c'est un jeu qu'on fait. C'est comme, c'est Google Maps qui te drop à une place dans le monde. Puis là, tu peux te promener un peu. Puis là, faut que tu guesses le plus proche que d'où est-ce que t'es, dans le fond. Okay. Fait que mettons, tu te fais dropper quelque part là, en au Mexique, là, sur une autoroute au Mexique. Puis là, tu te promènes, tu check. Puis là, t'essaies de deviner t'es où, tu sais. Puis là, t'es comme entre amis. On a passé des soirées complètes à faire ça. Puis tu sors de là, t'as l'impression d'avoir joué avec tes amis. Là.
Mais c'est vraiment cool parce que nous aussi, dans notre laboratoire, là, pour le Spinel, normalement, on se rencontre puis on est tout ensemble. Mais ma directrice, elle nous a fait une soirée avec le Randolph. Fait que c'était comme plein d'animations. Puis on se mettait en équipe. Oui, on allait dans les breakout rooms. Puis là, après, ouais, on revient à tout le monde ensemble. Puis on devine la chanson, des trucs comme ça. Puis on voit que le monde, tu sais... c'est plus dynamique que juste une conversation où est-ce qu'on est juste une personne qui peut parler à la fois. Surtout avec Zoom, là, c'est comme si on est plus que deux à parler, comme dans une vraie conversation, ça devient cacophonique. Et ça, c'était vraiment cool aussi, le Randolph en ligne. Fait que ça peut être aussi
un peu dans cette idée-là. Puis en parlant que tu parlais, ça m'a fait penser à... si tu planifies juste un meeting Zoom, c'est facile de choquer quand ça te tente plus. Ouais. Sauf que si tu organises quelque chose, moi avec mes amis, quand on le escape room, là, on a payé upfront. Ouais, fait que c'est quand, OK, les samedi soir, là, on a payé cette activité-là, fait qu'il faut y aller.
Pas le choix.
Fait que là, t'es comme obligé d'y aller. Fait que tu te forces à y aller, mais en même temps, c'est juste positif.
Mm-hmm. Puis la bière est déjà dans le frigo en plus. Il faut qu'on la boive.
C'est vous, là, anyway.
Portez de la main.
Ouais.
J'aurais aussi une autre question parce qu'elle est revenue très souvent et j'étais intéressée d'avoir votre avis là-dessus. Donc, Emma, qui est employée également, elle demande, est-ce qu'on peut devenir violent en temps de pandémie?
Ah ben, je me sens interpellée par cette question parce que ça me fait penser aux ados là, qui ont des comportements perturbateurs justement puis agressifs des fois. Mm-hmm. C'est de l'impulsivité là, probablement qui se cache derrière ça. Ben, on peut devenir violent premièrement n'importe quand. Hein? Ouais, puis ça peut arriver à peu près tout le monde peut avoir une impulsion de vouloir être violent. Mais qu'est-ce que c'est qu'être violent? T'sais? Mm-hmm. C'est de ne pas être capable de gérer les émotions difficiles. Puis c'est très... c'est primitif. Tu sais, un enfant qui n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait là, à 2 ans?
Il va lancer quelque chose.
moi, je me suis fait frapper par mon enfant quand elle était petite, quand elle n'était pas contente. Tu sais, c'est primitif, c'est archaïque. Fait que c'est sûr que ça vient nous chercher tellement, tu sais, ces renoncements, ces deuils. On se fait dire, fais pas ci, fais pas ça. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté justement à se reconstruire, à essayer de se pousser à sortir. Puis ça va sortir en violence, en comportement agressif. Des fois, les comportements violents, ils peuvent être violents envers les autres, envers les objets, mais envers nous-mêmes aussi.
Oui.
Puis, je pense que c'est très important d'être vigilant face à ce type de comportement. Puis quand on sent là, que c'est trop pour nous, là, puis qu'on va être violent envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre, bien, il faut faire appel vraiment à des ressources là, spécialisées. Il y a des lignes d'écoute qu'on peut appeler. Nos amis aussi. C'est important de reconnaître ça quand on sent justement l'énergie mobilisée. Là.
Exact.
On en est là. Fait que, tu sais, probablement, je sais bien que moi, quand justement je suis devant mon ordi et je me sens trop stressée, quand je pars faire mon vélo, après, je reviens, je n'ai plus le goût là, d'être violente. Là, mettons, c'était ça dont j'avais envie. Tu sais, ça c'est des tensions. Hein? Mm-hmm. La violence cherche à libérer une tension qui se passe à l'intérieur. C'est là que c'est très archaïque. Fait que, oui, on peut devenir violent en temps de pandémie, mais on peut devenir aussi violent face à n'importe quelle frustration qu'on vit. Mais la pandémie, c'est vrai qu'elle en crée énormément.
C'est ça,
puis elle ramène les gens à leur fondement, à l'intérieur d'eux. Fait que je pense d'être vigilant par rapport à ça, puis faire attention à la violence retournée contre soi-même aussi. Mmh.
Encore une fois, dans le podcast qu'on a fait avec Sonia Lupien, elle parlait de... entre 21 et 30 jours après le premier confinement, elle disait qu'il y a un énorme pourcentage de la population qui avait eu une grosse chicane.
Oui.
Puis elle dit grosse chicane. Puis là, elle raconte sa chicane qu'elle joue au Scrabble avec son fils. Puis ils se sont mis à chicaner, mais violemment, là, tu sais. Puis là, Dum puis moi, on écoutait ça, puis là, on réfléchissait, puis là, Les deux, on se connaît bien, on s'est tout compté, là, on se regarde, on fait...
Yep.
Ouais. Ouais, ouais. Entre 21 et 30 jours après le premier confinement, une grosse chicane de surplus, de, une chicane qui ne serait pas arrivée sinon, ouais. Tu sais. Mais là, un surplus de tout ça, là. C'est ça. De tout ça, de... Puis là, amener d'inconnu, d'incompréhension, d'instabilité, puis là, amener, pac! L'élastique lâche. Mm-hmm. Puis il y a une grosse chicane, puis c'est de la violence. Là,
nous, on a enlevé notre tempo, exactement. On a un super abri tempo chez nous, puis c'était exactement à ce moment-là. C'était
puis en plus, c'est le fun de faire ce genre de tâche-là.
C'est la tâche. Nous autres, on le sait. OK, on est-tu prêt aujourd'hui à chicaner? Ouais, parce que, en fait, on chicane toujours quand on installe ou on désinstalle. En plus, on le sait. Puis là, cette journée-là, moi, j'en avais assez du tempo. Ouais. Je voulais qu'on l'aille plus, je le trouve laid. Fait que là, je me dis, on l'a enlève le tempo aujourd'hui, mon Dieu, même pas le goût. Non, on l'enlève. Hey, ça a mal parti.
Ah ouais,
puis on a eu notre pire chicane de tempo, tu sais. Ça a été exactement ça, à ce moment-là. Puis qu'est-ce que ça, le tempo a amené beaucoup de. Ça l'amène toujours ça, le tempo. Tu sais, on n'est pas capable de gérer. Tu sais, ouais. Il se passe quelque chose qu'on contrôle pas.
Ouais, en plus, c'est ça.
Fait que là, il était dans la pandémie. Je voulais de la clarté, plus de tempo. Je contrôlais pas ça. C'est ça. Fait que. Il arrive ça, puis c'était trop de tension, justement. Mmh. Fait que, c'est ça. Pauvre tempo, là, c'est lui qui a
subi. En plus, c'est qu'on n'est pas préparé à réagir avec cette accumulation-là.
Mais non.
J'imagine même pas pour ceux qui ont déménagé pendant ce temps-là. Mmh. Ça devait être terrible.
Qui se sont séparés aussi. Oui. Il y en a que la chicane, finalement, était tellement grosse que ça a créé des séparations. Là.
Mmh. Ouais. Puis, je pense qu'on va. On commence à. Arrivé vers la fin, fait qu'on va aller vers les solutions. Mm-hmm. En fait, mais premièrement, discussion super, super intéressante. Merci vraiment pour vos inputs, votre partage, vos expériences. Puis en fait, maintenant qu'on comprend un peu mieux les différentes réactions comportementales, mais aussi les raisons pour lesquelles on peut avoir ces réactions-là, on trouve que c'est important d'être capable de partager des solutions. Ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'on en a partagé pas mal tout au long du podcast. On est vraiment contente parce qu'on s'attendait qu'on allait devoir comme un peu séparer, tu sais, être sûr que les solutions soient abordées, mais je trouve ça vraiment cool que ce soit tout au long pour pas que ce soit juste négatif, négatif, négatif. Donc, en fait aussi, mais comment est-ce qu'on peut avoir des comportements sains et pas juste avoir des réactions qui sont malsaines puis qui nous font du mal aussi à nous, comme la violence qu'on vient tout juste d'aborder. La recherche montre que la pandémie demande plus d'énergie à notre cerveau. Donc, je trouve ça cool parce que ça revient un peu recouper tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Donc, justement, ça demande un peu plus d'énergie à notre cerveau au niveau du lobe frontal qui nous demande vraiment de réfléchir comme activement puis qui prend vraiment beaucoup de jus cérébral. Puis c'est justement c'est cette partie-là qui contrôle nos comportements prosociaux, donc qui facilite les interactions sociales avec les autres. Puis vraiment, lorsque cette région-là du cerveau est fatiguée, il y a plus de chances que nos comportements deviennent moins sociaux, moins gentils, peut-être plus violents, un peu comme la exactement comme la conversation qu'on vient d'avoir, finalement. Puis ça devient plus facile, à ce moment-là, de retomber dans des habitudes qui sont toxiques, des anciennes habitudes toxiques. Donc, ce qui est recommandé à travers la recherche, c'est vraiment de trouver des activités qui rechargent notre lobe frontal puis qui ressourcent. Donc, ça peut être de se forcer à aller marcher, si c'est ça qui nous fait du bien. Si t'es quelqu'un qui est introverti, ça peut être de lire, ça peut être faire plein de choses comme ça qui, toi, te fait du bien à toi. Donc, c'est ça. C'est vraiment de souligner l'importance de trouver des activités qu'on fait pour nous-mêmes, puis qu'il faut peut-être faire un petit peu plus preuve de créativité étant donné la pandémie, mais vraiment de... Un peu comme on a dit ça pendant pas mal tout le podcast. C'est vraiment ça qui est cool, c'est de voir comment ce qu'on dit, ce qu'on discute, nos expériences, comme vraiment font du sens avec la recherche. Comme, ça va pas bien socialement, t'es irritable, puis personne t'endure, tu t'endures plus toi-même. Mais hey, il faut. Bon, OK, cool, tu le sais, il est temps qu'on fasse quelque chose pour nous. Mm-hmm. Oui.
Ben, ça recoupe ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je pense que ça veut dire qu'on est aligné sur la conversation. Là,
mais je pense aussi ce qu'il ne faut pas oublier, on a parlé beaucoup de sport parce que c'est nos intérêts personnels puis on est comme ça. Puis, je vous ai dit, ça dépend de la personnalité qu'on a aussi. Mais il ne faut pas oublier les gens qui ont moins ce goût-là de faire du sport puis de trouver qu'est-ce qui fait du sens pour nous. De créer un sens. Moi, une autre chose que je fais en plus de faire du sport, je tricote, par exemple. exemple. Puis ça m'aide à construire quelque chose très tangible. Mm-hmm. Mais pour beaucoup de personnes, la créativité aussi s'est exprimée comme ça. Ils se sont mis à la peinture. Nous, dans notre étude, tu sais, il y a des jeunes qui nous ont dit ça. J'ai découvert un nouvel instrument de musique que je connaissais pas. J'ai trouvé des talents que je ne savais pas que j'avais. Fait que de trouver un sens, finalement, puis de pouvoir continuer à se développer. Je pense que l'idée de... Tu sais, je vous ai dit, c'est comme faire une pause développementale qu'on a demandé aux jeunes, mais trouver comment faire pour continuer de se développer et de croître à travers la situation exceptionnelle, désagréable qu'on vit, tu sais. Fait que je pense que ça serait un message important. Tu sais, la croissance, mais qui fait un sens pour nous, là, pas pour le voisin. Non,
exact. Tout à fait. Ouais. Puis pour continuer sur ça, faut être aussi conscient de... Je vais reparler un petit peu des réseaux sociaux, mais des influences qui nous entourent, puis de savoir lesquelles sont bénéfiques pour nous. Moi, il a fallu que je me désabonne de plusieurs personnes que je juge ultra pertinentes sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils prenaient un message qui, moi, me fonctionnait pas avec moi, tu sais. Oui. Fait que, mettons, moi, j'ai besoin, là, par mon background de sportif, j'ai besoin qu'on me crie après, qu'on me traite de mou, qu'on me botte le cul, qu'on me dise, tu sais, de me faire brasser. Fait que j'ai eu des comptes de personnes qui font ça, tu sais. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un que ce genre de pression-là est toxique, de suivre les comptes que... Tu sais, si quelqu'un tombe sur mon feed Instagram puis regarde les comptes que je suis, puis cette personne-là a pas envie de cette pression-là, mais tu vas te sentir comme un tas de booze, là. Tu sais, fait que je pense aussi de savoir, tu sais, de savoir, de questionner soi-même, d'essayer de se comprendre, puis de s'entourer autant de personnes que d'inspiration, que de comptes sur les réseaux sociaux, de suivre des choses qui fit avec toi, tu sais. Mm-hmm. Parce que il y a plein d'affaires qui se veulent anti-anxiogènes, qui, moi, me créent de l'anxiété, puis vice-versa, tu sais. Fait que c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Puis je pense que c'est par là que ça commence, là, tu sais.
Oui, je suis vraiment d'accord. Puis, dans le fond, pour finir aussi sur une note positive, est-ce que vous avez quelque chose que vous êtes reconnaissant par rapport à la pandémie? Justement, on finit toujours avec ça, donc quelque chose que vous voulez partager, que vous êtes reconnaissant?
Ben moi, comme la pandémie m'a déstabilisée comme chercheur, tu sais, puis ben je dois, tu sais, le projet de recherche que j'ai parti avec ma collègue Catherine Pascuzo, pour moi, je suis très reconnaissante de ce projet-là, dans le fond. Premièrement, avec Catherine, on n'avait jamais collaboré ensemble, donc pour moi, c'est une collègue, c'est une amie, c'est une partenaire pour la vie maintenant, là, tu sais, on va travailler ensemble, on dirige les étudiants maintenant ensemble. Fait que ça, oui, puis avec ce projet-là aussi, on est beaucoup intervenu dans les médias. On croyait, d'habitude, on fait pas ça comme ça dans les recherches, mais tu sais, on a même sorti des résultats de recherche dans les médias traditionnels plutôt que les journaux scientifiques parce qu'on avait l'impression qu'on faisait une différence et qu'on contribuait à faire connaître notre recherche puis que ça l'aidait à la compréhension du monde de la pandémie. Donc, mon lien avec les médias grand public, je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me stimule. Moi aussi, j'ai le profil athlète, fait que j'aime ça quand c'est dur, puis que ça me crée un stress. Tu sais, moi, le stress, j'en mange. Fait que, je veux dire, c'était une nouvelle façon, une nouvelle tribune. Puis ça, je pense que je vais continuer de le faire pour justement redonner, pas juste laisser ça dans les médias, dans les journaux scientifiques, mais vraiment redonner. Puis ça, je suis très reconnaissante donc de ce projet-là. Fait que je dirais ma grande amie Catherine, puis de faire de la recherche autrement, là, finalement.
Ben ça, c'est tellement intéressant parce que moi, je trouve tellement qu'il y a un pont qui n'est pas là entre la recherche puis le milieu universitaire 100%. Puis le grand public. Tu sais, on est souvent en train de se dire, on se pose des questions. Tu sais, on se dit, hey, je me demande si, mettons, là, je vais dire vraiment n'importe quoi, là, mais genre, hey, je me demande vraiment le pois chiche, virgule, genre la performance ou genre les dysfonctions érectiles, mettons, là, tu sais. Puis là, tu te dis, je me demande vraiment c'est quoi la corrélation. Mais tu sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui le sait.
Oui, c'est ça.
Genre, il y a quelqu'un qui a fait son doc sur la corrélation entre les légumineuses puis les dysfonctions érectiles. Tu sais, il y a quelqu'un qui le sait. Puis là, c'est juste, ben, pourquoi est-ce qu'on le sait pas, tu sais? toutes les recherches universitaires qui sont financées, qui c'est comme, exact. OK, mais on pousse au fond, là, on connaît des affaires, mais c'est juste, on fait pas le pont. Mm-hmm. On fait pas le pont.
On en veut plus des podcasts.
Ben,
hein?
Mais tout à fait, 100%, 100%.
Mais moi, j'encourage mes collègues vraiment à aller dans les médias, puis on a fait un comité média à mon groupe de recherche, puis moi, je démystifie, je dis, ben, ça vous mangera pas, là. Non, c'est vous fort. Êtes capable d'aller parler, mais c'est pas tous les chercheurs qui ont envie de le faire non plus, tu sais, c'est s'exposer une vulnérabilité, là, mm-hmm. D'aller parler.
Puis on le voit aussi, si tu sais, maintenant, il y a beaucoup, si tu dis quelque chose que quelqu'un qui aime pas, sur puis tu t'exposes au public, ah ouais. C'est pas juste des pères qui te lisent puis qui disent « Ah, t'as raison », tu sais, c'est du monde qui dit « Non, moi! »
C'est ça,
exactement. Moi, j'en mange pas de pois chiches, puis j'étais encore bien bandé, tu sais, c'est comme... moi, pour juste closer
sur ça... Après les pois chiches.
Moi, je suis ultra reconnaissant parce que je me suis jamais autant appris à me connaître personnellement que durant la COVID, tu sais, mm-hmm. Fait que je me suis challengé, j'ai eu des hauts, des bas, mais j'ai jamais autant grandi personnellement, mettons, que durant cette période-là. Moi, c'est pour ça que je suis reconnaissant de la COVID. Oui.
Toi, Marceau?
Moi, je pense que j'ai vraiment appris à adopter une routine de travail saine. Ben, je suis toujours très malsaine parce que je travaille un peu trop, là.
Quoi? Toi?
Mais ça reste que j'ai... J'ai toujours été dans l'espace, ça m'a toujours fait du bien, mais comme, tu sais, c'était des pratiques de volleyball 2 à 3 fois semaine, puis c'était comme, c'était peut-être pas assez. Puis vraiment, à travers la pandémie, j'ai appris que comme, tu sais, j'ai mon petit équipement de gym, puis comme justement, mon style des fois, comme, hostile Zoom, j'étais écœurée, j'ai mal à la tête. J'ai le droit de sacrer sur le podcast, by the way.
Il n'y a pas de sacre dans le studio. Non,
jamais. Ça, c'est jamais fait. Puis dans le fond, ça a vraiment permis comme de développer une régularité que j'aurais jamais pensé avoir avant. Je m'entraîne. Il y a des fois où je m'entraînais à tous les jours. Puis quand que je m'entraînais pas tous les jours, ça me frappait comme un truc, j'avais mal à la tête. Fait que vraiment, ça m'a poussé à prendre des habitudes saines, puis à reconnaître, OK, genre j'ai le fog dans le cerveau, tu sais, un peu comme t'expliquais que Sonia Lipien décrivait. Puis d'apprendre à juste faire, à juste me lever de ma chaise, puis partir puis de faire autre chose, parce que c'est ça qui est le fun aussi avec la recherche puis avec les études, c'est que t'as cette flexibilité là comme j'ai pas besoin d'être devant mon ordi. Tout comme on a, tu sais, je pense j'ai fait mes preuves, le monde savent que comme si je dis que je vais faire quelque chose, ça va être fait. Fait que merci, bonsoir. Puis comme cette stabilité là est quand même, c'est quand même un des trucs les plus, c'est un des horaires les plus sains que j'ai jamais eu de ma vie. Fait que ça là,
100%,
ouais.
Très cool.
Oui, puis moi, dans le fond, je suis vraiment reconnaissante que toute ma famille, mon entourage, puis moi-même, on soit resté en santé à travers cette pandémie-là.
Ça, c'est sûr.
Puis même si c'est pas le coronavirus, là, juste attraper une grippe ou une autre maladie pendant la pandémie, c'est pas vraiment l'idéal. On peut pas aller voir les autres. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissante justement que tout le monde dans mon entourage soit resté en santé et moi-même, d'ailleurs, à travers ça.
Très cool.
Donc, on vous remercie énormément. Donc, la discussion était vraiment cool. Mm-hmm. Ça a vraiment été intéressant. Comme ça a bien nourri. On a occupé une heure et demie au complet.
Yes.
Puis, en fait, si on veut continuer à vous suivre, où est-ce qu'on peut aller? Comme Catherine, par exemple, je sais que tu as une page, fait ton projet de recherche, une page Facebook.
Ah oui, ça, c'est ça. Ça qui est totalement nouveau, là. Tu sais, je vous ai dit que je faisais les choses autrement. Donc, au début, on a parti une page Facebook. Ça s'appelle Recherche sur l'adaptation des familles COVID-19. Mais on essaye surtout d'alimenter notre page Instagram. Mm-hmm. Je sais pas, on appelle ça une page Instagram, ouais. ça s'appelle Grandir en temps de pandémie. Okay. Donc, puis ça, c'est, on veut mettre juste du contenu, justement, comme on a discuter aujourd'hui. Mm-hmm. Comment on fait pour s'adapter? C'est du contenu plus positif. Le but n'est pas de suivre la recherche, mais sinon, si vous voulez suivre la recherche plus scientifique, là, c'est sur le site du GRIS, gris.ca. Là, vous allez trouver nos rapports de recherche là, qu'on va faire. Puis sinon, suivez-moi, vous allez me trouver aussi. ResearchGate, etc. Là.
Super, ouais, super cool. Puis toi, cool.
Moi, en fait, le Sans Filtre podcast, si vous écoutez ça en ce moment, j'imagine que vous aimez les podcasts.
Yes.
Fait que le Sans Filtre podcast, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit autant de nos amis proches que des spécialistes puis des scientifiques. Fait que de ce qu'on parlait tantôt, un petit peu de faire le pont entre les deux, on le fait sur le Sans Filtre. Fait que si vous aimez ça, vulgariser la science ou des conversations comme on le fait maintenant. Sinon, sur Instagram, à PHQAN. Vous allez me trouver.
Super, mais merci encore énormément.
Merci à vous, c'était super le fun, vraiment.